Bien, au nom du comité local d'attaque 78 Sud et des librairies du pavé, du canal et dans la mare, je vous remercie de votre fidélité ou de votre intérêt. J'accueille avec plaisir Hervé Kempf, qui est d'abord journaliste à scientifique pour Science et Vie Micro, puis Tchernobyl le pousse à se consacrer aux questions écologiques. Il fonde Reporter, qui est un site dont les trois chapitres sont écologie, société, liberté, au pluriel. Il a travaillé pour Courrier International, pour la recherche, et il se spécialise pour les questions environnementales pour le quotidien Le Monde. Il est proche de la mouvement intermondialiste. En 2007, il met en place les liens entre crise sociale et crise écologique dans « Comment les riches détruisent la planète », livre cité à la séance plénière de la rencontre de Copenhague par Hugo Chavez, le président du Venezuela, le 16 décembre dernier. En 2009, il publie « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Toute cette réflexion est fondée sur un travail de fond long sur les OGM, le réchauffement climatique, la révolution biolithique, c'est les humains artificiels, des machines animées, etc. Le capitalisme est déjà mort. Et nous sommes entrés dans l'ère du post-capitalisme. C'est le point de vue d'Hervé Kempf.
Légèrement provocateur. Pas absolument. C'est un raccourci, disons.
Homme libre est le mieux à même de nous présenter le contenu du livre qui nous réunit ce soir. Quid du capitalisme, de l'écologie politique, de la sixième extinction de la biodiversité, de la place du marché dans l'économie, de la place de l'économie dans la société, des mauvaises solutions, enfin des chemins possibles pour un autre monde. Mais nous n'avons qu'une soirée, alors bienvenue Monsieur Kempf.
Merci. Ça marche ? Merci beaucoup. Tu sais, je vais peut-être parler debout parce que si l'appareil marche.
Oui.
Il faut parler très fort. Non. Non, ça n'a pas marché.
Ça y est.
Allô ? Allô ? Non. Couleur muette ? Allô ? Autrement, je m'assieds, mais... Pour ceux au fond, ça sera moins agréable peut-être.
Si, remets-le en route, là, oui. C'est bon, là. Voilà, c'est bon.
Eh bien, bonsoir. C'est quand même pas tout à fait une soirée funéraire, puisque le capitalisme est vacillant, mais pas encore tout à fait mort. Mais en revanche, on peut... imaginez le post-capitalisme, et là on est bien d'accord. Bah écoutez, merci d'être là, puis vous avez l'air de très bonne humeur, ça fait plaisir, et y a une super équipe d'Attaque Sud, on a discuté avant de venir, et notamment un des membres a dit l'éducation populaire et Attaque, ça permet de lutter contre la fatalité, et je crois que Nicolas disait très bien, la fatalité c'est de croire que les choses arrivent et on peut rien faire contre la délocalisation en Chine, on peut rien faire contre les banques, on peut rien faire contre les profits, on peut rien faire contre les délocalisations, on peut rien faire contre la crise écologique. Et l'expliquait très bien Nicolas, et bien si, le fait de comprendre, d'analyser, de discuter, de penser, ça permet de comprendre qu'il est possible, parce que tout ça, ce sont des décisions humaines, de renverser la fatalité. Donc, merci de cette belle idée. Bonsoir. Je me pose un peu, je me suis levé très tôt ce matin, alors j'espère que je ne vais pas m'endormir pendant la conférence. Non, c'est une plaisanterie. Et, bon, écoutez, le mieux, on commence maintenant. Alors, oui, vous m'aviez aussi dit, les camarades d'attaque, que Nikonov était venu ici. Il avait parlé une heure et quart, et après, il avait encore parlé, enfin, ça avait duré une heure et demie. Donc, je ne serai pas aussi brillant que Jacques Nikonov. Je ne parlerai pas une heure et demie. Je crois que à peu près trois quarts d'heure, et puis on discutera, entre autres, pour faire le diagnostic de ce cadavre encore bien portant, hélas, mais plus tout à fait fringant quand même. Et donc, le capitalisme, le point de départ, c'est de se dire que c'est pas un concept, en tout cas, ça sera pas le point de vue ici, un concept flottant dans l'éther des idées et qui mérite des discussions académiques, intellectuelles, théoriques profondes. Le capitalisme tel qu'on va l'envisager ici, c'est bien une forme historique concrète et dans laquelle nous sommes plongés, qui est en fait, qui définit le moment d'histoire dans lequel nous sommes, le système social et économique dans lequel nous sommes ces temps-ci. Et un point important à comprendre, c'est que ce système, ce capitalisme a profondément muté, c'est-à-dire que le capitalisme que les plus jeunes dans cette salle ont toujours connu est profondément différent du capitalisme que des plus âgés, les plus sages dans cette salle ont été connus, c'est-à-dire que celui en gros des 30 glorieuses pour en rester à cette période historique. Autrement dit, il y a eu entre le capitalisme, et la date est assez précisément marquée depuis les années 80, et la période antérieure du capitalisme, celui des 30 glorieuses des années 50, 60, 70, une différence profonde, une vraie rupture de régime. Et c'est ce point-là qui permet qui est un point d'entrée important pour comprendre l'époque dans laquelle nous sommes. Alors paradoxalement, je vais commencer par un élément de relative permanence. Alors que le dogme économique officiel nous a toujours dit depuis quasiment la fin des années 70, nous sommes en crise, la croissance est trop faible, la productivité n'augmente pas, il se référait à l'époque antérieure des 30 glorieuses où il y avait une augmentation de la productivité très importante qui était de l'ordre de 5% par an en moyenne dans quasiment tous les pays occidentaux, même s'il y a eu cette augmentation très forte était liée à un effet de rattrapage par rapport à la dépression profonde des années 30 et par rapport aux destructions très fortes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait un aspect de rattrapage, de reconstruction très important pendant plusieurs dizaines d'années. Mais même s'il y a eu une rupture de rythme, depuis les années 1970, la productivité a continué à augmenter à des taux certes plus faibles, mais qui sont restés tout à fait conséquents. Par exemple, en France, mais la statistique est à peu près la même pour tous les pays occidentaux, de 1,8% par an. Alors, ça paraît peu, c'est présenté comme médiocre par les économistes officiels. En fait, ça signifie que le travail humain a continué à augmenter sa capacité de produire de la richesse. On reviendra sans doute sur ce concept de richesse matérielle tel qu'il est mesuré de manière importante. Par exemple, 1,8 par an en France, ça signifie qu'une unité de travail aujourd'hui, en 2006, c'est 65% de plus de richesse produite par cette unité de travail par rapport à 1988. C'est-à-dire, en 20 ans, une augmentation de la richesse produite par unité de travail de plus de moitié. Donc, même si la croissance de la productivité a été inférieure à la période antérieure, elle est restée très soutenue et conduit à une augmentation de la production matérielle extrêmement importante. Alors, un deuxième facteur important dans la mutation du capitalisme des 30 dernières années, et qui lui marque une vraie évolution, un vrai changement de régime, c'est la spéculation financière. Alors je sais que Attac, vous êtes très averti là-dessus, donc je ne vais pas beaucoup gloser sur ce point. Juste quand même pour se rappeler un chiffre, pour se fixer les idées, c'est le décalage très important qui s'est produit au cours de toute cette période entre l'économie financière, les mouvements de capitaux et ce qu'on peut appeler, même si c'est débattu, l'économie réelle de la production et d'échange des biens et des services. Eh bien par exemple, en 2002, le PIB, le produit intérieur brut mondial, était estimé être de l'ordre de 32 000 milliards de dollars. La même année, le volume des transactions monétaires atteignait 1 million de milliards de dollars, c'est-à-dire 30 fois plus. Donc, constitution d'une bulle financière tout à fait impressionnante. Alors rapidement, les raisons et les mécanismes qui ont permis le gonflement de cette bulle, ce décrochage de l'économie financière par rapport à l'économie réelle. D'abord, des changes flottants à partir des années 1970, c'est-à-dire qu'avant, pendant la période antérieure, toutes les monnaies étaient accrochées au pivot qui était le dollar, qui était l'étalon stable. À partir de 1971, parce que l'économie américaine commençait à vaciller, à être très dépendante de l'extérieur, eh bien, il y a eu une dévaluation du dollar, ou plus exactement, un système de change flottant, c'est-à-dire que les monnaies ont commencé à pouvoir varier les unes avec les autres, ce qui a permis pour ceux qui le pouvaient, qui le savaient, de jouer sur ces différentiels pour faire des opérations spéculatives tout à fait importantes. Un deuxième paramètre, un deuxième facteur plus exactement de ce gonflement de la bulle financière, c'est à partir des années 70, les grands chocs pétroliers de 73 et 79 qui ont lancé le mouvement en mettant en mouvement par l'augmentation des prix du pétrole des capitaux importants qui ont été vers les pays producteurs de pétrole, ceux-ci n'en ayant pas l'usage pour la plupart parce qu'ils n'avaient pas des besoins d'infrastructures ou économiques suffisants, les ont réinvestis sur les places financières occidentales, contribuant à alimenter ce régime d'expansion des capitaux. Et puis, troisième paramètre tout à fait important, la dérégulation des marchés financiers engagée de manière tout à fait systématique et délibérée à partir de 1980 par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan en 1980-81. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que l'expansion de cette économie financière a été en fait le moyen par lequel les capitalistes ont trouvé le moyen de changer la répartition de la richesse collective. C'est-à-dire que cette augmentation très importante de richesse qui s'est produite par l'augmentation de la productivité qu'on a mentionnée auparavant, eh bien une partie de plus en plus importante a été appropriée par une petite partie de la société. Et on a ainsi assisté pendant ces 30 années, depuis 1980, à une augmentation très considérable des inégalités dans tous les pays occidentaux. Puis si on avait le temps, on parlerait aussi d'inégalités entre le Nord et le Sud, mais restons-en pour l'instant aux pays occidentaux. Alors depuis quelques années, il y a beaucoup de bonnes études qui ont bien montré ce phénomène, vous en connaissez certaines, et puis c'est des économistes, notamment Piketty par exemple, ou Saez, ou Canilandet pour la France, qui ont bien montré ce phénomène. Il y a une étude que j'aime bien parce qu'elle montre très clairement l'évolution dans le temps de cette inégalité. C'est une étude américaine par deux économistes, Friedman et Sachs. C'est pas le même Friedman, Milton de sinistre réputation, c'est quelqu'un de tout à fait plus moins nuisible et autre. Et donc Friedman et Sachs ont étudié l'évolution dans le temps d'un rapport, d'une mesure de l'inégalité, parmi d'autres, mais celle-là est un bon et bien significatif. Ils ont observé l'évolution dans le temps du rapport entre ce que gagnaient les trois principaux dirigeants des 100 plus grandes entreprises aux États-Unis et le revenu moyen aux États-Unis. Et donc, ils regardent l'évolution de ce rapport à partir des années, de la fin des années 40, pendant les années 50, 60, et alors pendant toute cette période, le rapport donc entre le revenu de ces dirigeants et le revenu moyen aux États-Unis est de l'ordre de 30, il évolue autour de 30, il aussi, mais il est assez stable. Ça continue pendant les années 60, 70, et puis à 1980, on a là un décrochage très clair. En fait, il faudrait que je monte sur la table pour vous montrer jusqu'où monte la courbe, mais vous allez imaginer. Et ça monte très régulièrement à quelques oscillations, mais très régulièrement jusqu'à 2002, où on atteint le niveau de 150 à 200. En fait, d'ailleurs, le mouvement a continué après, une autre étude l'a montré jusqu'à 2006, mais je passe les détails. Donc voilà, on a ce mouvement, après une période, je ne sais pas si elle était équitable, mais en tout cas, de partage assez stable de l'accroissement de la richesse collective entre ce qu'on pourrait appeler le capital et le travail, pour faire rapide, à partir de 1980, un décrochage très clair et très profond. Alors qui s'observe dans tous les pays, il a été le plus accentué aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais on l'observe dans tous les pays occidentaux, au Japon, par exemple. Pour la France, un autre indicateur de cette évolution a été montré par Jean Gadret, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent ici, c'est un économiste très pertinent et vraiment stimulant. Et entre autres choses, il a observé l'évolution du CAC 40, le CAC 40 c'est... cet indicateur boursier dont on nous rabat les oreilles 4 fois par jour entre le football et la météo. Donc si vous aviez, j'en suis sûr que beaucoup dans cette salle, nous avons fait ça, si nous avions pris une action de toutes les actions d'entreprise du CAC 40 et puis étions partis à la pêche ou écouter des conférences ou dormi pendant 20 ans, eh bien notre CAC 40, notre portefeuille aurait augmenté de 120% entre 1988 et 2006. Pendant la même période, dit Jean Gadret, le salaire annuel moyen en France a augmenté de 15%. Bon, voilà. Évolution très forte des inégalités. Autre caractère important dans cette mutation, cette évolution du capitalisme des 30 dernières années, qui le différencie très clairement de la période antérieure, c'est le développement de la corruption. Non, la corruption a toujours... je ne sais pas si on peut dire toujours, mais enfin très très souvent et très longuement existé, mais elle était un phénomène relativement marginal, relativement contrôlé, qui n'interférait pas vraiment avec le cours de l'économie. Il est clair que dans la dernière période, la corruption est devenue un élément tout à fait majeur, tout à fait structurel de nos économies, que ce soit dans un certain nombre de cas par le développement d'une économie criminelle qui s'interface très directement avec, avec les systèmes économiques. Ça peut être par exemple le cas d'un pays comme le Mexique, qui avec l'économie de la drogue est totalement et de la corruption est totalement imbriquée avec l'économie formelle. Ça peut être aussi des phénomènes plus limités, par exemple le boom immobilier très important qu'a connu l'Espagne dans les années 90 est en bonne partie lié à l'injection de capitaux des mafias italiennes et russes dans le marché immobilier espagnol. Et puis il y a des formes différentes de corruption, soit des systèmes de corruption j'allais dire traditionnels d'acquisition des marchés. Un des cas les plus frappants est celui par exemple de la grande entreprise Siemens, qui a été convaincue de corruption pour un montant atteignant 1,2 milliard d'euros, ce qui est quand même une coquette somme. Ou plus largement des délits d'initiés, c'est-à-dire l'utilisation d'informations confidentielles par des dirigeants d'entreprise qui l'utilisent à leur intérêt personnel. Et puis plus largement, il y a bien sûr une fraude fiscale généralisée par l'oligarchie et par un certain nombre de banques, ça s'appelle eh bien les paradis fiscaux, c'est-à-dire le transfert de capitaux gagnés dans un pays vers un autre pays où les règles fiscales sont beaucoup plus souples et laxistes, de façon à échapper à l'imposition dans le pays d'origine de ces richesses. Et alors, je pense que vous êtes très familier ici à Attaque de l'ampleur de ces paradis fiscaux, mais enfin pour se refixer des chiffres quand même, en 2004, nous dit d'une ONG qui travaille beaucoup là-dessus, Tax Justice Network, les paradis fiscaux, on estimait qu'ils abritaient un volume atteignant 11 500 milliards de dollars, ça représente plus de 4 fois le PIB d'un pays comme la France, c'est-à-dire quand même des volumes tout à fait importants qui sont extraits, on pourrait presque dire volés, des sociétés et de nos systèmes collectifs. Et puis il y a une forme de corruption qui est l'habitude qu'ont prise les oligarques de ne pas être sanctionnés en cas d'échec de leur conduite, en cas d'échec, que ce soit des chefs d'entreprise qui ont vu leur entreprise être amenée à licencier des milliers de personnes, le cours de bourse chuter, et pourtant ils sortent la tête haute de ces entreprises et souvent avec des bonus, des stock options, un certain nombre de primes tout à fait considérables. Alors, il est assez facile, j'avais beaucoup d'exemples de ce type de comportement que si l'on suit attentivement la presse, on trouvera aisément. Mais il y en a un qui est tout à fait massif depuis l'affaissement du système financier à partir de 2008. Eh bien, c'est tous ces le fait que tous ces spéculateurs et tous ces banquiers qui ont conduit à l'affaissement du système bancaire et à la récession économique que l'on connaît, qui ont été sauvés par l'injection, l'intervention de l'argent public et des États, eh bien, ont continué aussitôt la bouée de sauvetage et les navires en perdition ayant été sauvés par la collectivité, eh bien, ont continué, comme nous le savons tous, à se réallouer des primes et des bonus tout à fait extravagants, que ce soit en France, que ce soit à Wall Street, que ce soit à Londres, etc. Donc voilà. Un autre caractère tout à fait important de ce nouveau, ça va se passer le nouveau, moi j'ai effectivement plutôt tendance, on reviendra peut-être dans la discussion, à penser que c'est une phase terminale, en tout cas de cette période du capitalisme dans laquelle nous sommes engagés depuis une trentaine d'années, c'est la mondialisation. Alors je ne vais pas beaucoup vous parler, je ne vais pas vous parler de la mondialisation industrielle, des délocalisations, etc. Vous en savez autant que moi ici, surtout en étant pas très loin d'une grande entreprise automobile dont l'usine est située à Flins. Mais je voulais insister sur un point qui n'est peut-être pas assez envisagé quand on en parle, c'est la mondialisation culturelle, c'est-à-dire le fait que d'un bout à l'autre de la planète, que ce soit de Saint-Quentin à Niamey, de New York à Jakarta, de Londres à Rio de Janeiro, nous savons plus ou moins les uns et les autres, malgré les différences très grandes de mode de vie, malgré les différences très grandes de valeurs culturelles et de systèmes de valeurs, nous savons plus ou moins les uns et les autres comment nous vivons, notamment par un instrument tout à fait banal qui s'appelle la télévision. Et voilà, et ça c'est un caractère tout à fait important et qui conduit en quelque sorte à, au fait que la mondialisation se traduit aussi, et peut-être est-ce son caractère majeur, par ce qu'on pourrait appeler une mondialisation culturelle ou une certaine homogénéisation de la culture, c'est-à-dire des systèmes de référence. Et ce point a un caractère tout à fait important, notamment parce que cela généralise le mécanisme de la rivalité ostentatoire. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un phénomène humain qui a été bien décrit par un économiste de la fin du 19e siècle qui s'appelait Thorstein Veblen. Je vais vous résumer très rapidement son analyse, mais il me semble qu'elle est très pertinente pour comprendre l'époque actuelle. Thorstein Veblen, en s'appuyant sur beaucoup d'études ethnographiques de son époque, à une époque en plus 19e siècle où beaucoup de sociétés que l'on appelle maintenant premières étaient non pas résiduelles comme c'est le cas maintenant, mais étaient encore en assez bonne santé. Donc Thorstein Veblen observait que dans un très grand nombre de sociétés, les individus sont les uns avec les autres dans une relation de rivalité de prestige, de rivalité symbolique, de compétition ostentatoire consistant à manifester par quelques signes extérieurs qu'ils ont une légère supériorité par rapport à leurs congénères. Alors c'est pas une compétition agressive, ça n'est pas Veblen ne la caractérisait pas d'un point de vue moral, et ça ne nuisait pas en tant que tel à la paix dans ces sociétés, mais voilà, il observait que ce mécanisme, la rivalité ostentatoire, s'observe dans un très grand nombre de sociétés. Et puis, par ailleurs, que dans les sociétés hiérarchisées, les individus d'un groupe social trouvaient le modèle de ce qui allait leur permettre de montrer une petite surcroît de prestige par rapport à leurs proches, à leurs collègues, dans la façon de vivre des membres de la couche sociale située au-dessus, qui eux-mêmes sont en proie à cette rivalité ostentatoire et trouvent le modèle de ce qui va leur permettre d'assurer cette petite supériorité symbolique dans la façon de vivre de ceux qui vivent au-dessus. Et ainsi de suite, de bas en haut, jusqu'à ce que la classe de loisirs, telle que l'a nommée Veblen, dans un sens pas marxiste, mais enfin il employait le terme de classe, la classe de loisirs, qu'on pourrait dire oligarchique, classe dirigeante, choisissez le terme que vous voulez, la réalité est en tout cas qu'il y a des gens au sommet de cette pyramide sociale et de cette pyramide de richesse, eh bien, définit le modèle culturel que tous les membres de la société vont être d'une manière ou d'une autre appelés ou avoir envie plus exactement d'imiter pour manifester cette rivalité symbolique. Ça ne veut évidemment pas dire que tout le monde peut vivre à la façon de l'oligarchie, qui d'ailleurs elle-même est en proie à une rivalité ostentatoire encore plus vive que les autres membres de la société. Tu as un yacht de 65 mètres de long, et eh bien moi j'aurai un yacht de 75 mètres. Tu as une Patek Philippe, et eh bien moi j'aurai une Rolex, etc., etc. Mais voilà, ça veut dire que ce modèle culturel imprègne l'ensemble de la société. Alors qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle avec ce phénomène de mondialisation culturelle? Eh bien que ce modèle est dans une société qui est devenue très riche, on l'a vu quand on a abordé la question de la productivité, l'augmentation de cette productivité signifie aussi que nous atteignons maintenant, à l'époque actuelle, les plus grandes capacités de production de richesse, on reviendra une fois de plus sur ce thème, matérielle de toute l'histoire de l'humanité. Donc une richesse matérielle tout à fait colossale, dans une société qui est mondiale, et donc où le modèle de surconsommation exhibé par l'oligarchie des pays occidentaux, qui restent encore les grands producteurs du modèle culturel, eh bien, est étendu à l'ensemble de la planète, et est imité, ou en tout cas est dans un désir d'imitation d'un bout à l'autre de la planète. Alors tout ça nous conduit à la crise écologique, qui est un autre caractère tout à fait essentiel de l'évolution du capitalisme dans les 30 dernières années. Non pas, bien sûr, que ce soit nos amis Reagan, Thatcher, Sarkozy et autres Berlusconi qui aient créé cette crise écologique, bien sûr. Elle avait commencé, la dégradation de l'environnement avait commencé bien avant avec la révolution industrielle et cette capacité, par les nouvelles technologies et un nouvel emploi des sources d'énergie, de transformer notre environnement. Mais d'une part, elle a pris un caractère de plus en plus important au long des décennies jusqu'à atteindre précisément, on pourrait dire qu'il y a une sorte de caractère cumulatif dans la dégradation de l'environnement, et puis qui atteint maintenant une dimension d'autant plus importante que, et une fois de plus, je réinsiste sur ce concept de productivité, nous avons avec le travail, qui n'est pas seulement une production de richesses matérielles, mais en fait un enjeu de transformation de l'environnement, et bien une capacité massive, beaucoup plus importante qu'elle n'a jamais été, de transformer son environnement, et malheureusement, dans un sens de dégradation. Un deuxième aspect est que cette crise écologique qui a pris une dimension tout à fait importante et qui est aggravée à un point tel que les scientifiques nous disent que pour un certain nombre de domaines de caractérisation de l'environnement, eh bien nous atteignons une zone rouge, ce qu'on pourrait appeler une zone rouge, c'est-à-dire une situation dans laquelle nous pourrions franchir un seuil tel que au-delà, si nous passions au-delà de ce seuil, il ne serait plus possible, quelles que soient les actions que nous entreprendrions, de revenir à l'état d'équilibre antérieur. Alors cette notion de seuil est notamment bien utilisée en ce qui concerne le changement climatique, et les scientifiques tendent à évaluer ce seuil à un niveau de 450 parties par million de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou un niveau de 2 degrés de réchauffement par rapport aux températures pré-industrielles. Mais le même concept est aussi appliqué par rapport à la biodiversité, c'est-à-dire l'idée que si un certain nombre de au-delà d'un niveau que là on ne sait pas bien évaluer, ni chiffrer, ni caractériser, eh bien il pourrait y avoir un écroulement ou un affaiblissement des chaînes écosystèmes importantes. Et puis, troisième caractère de cette crise écologique, et là, le capitalisme de la période récente joue un rôle tout à fait important, c'est que autant on ne pouvait pas reprocher à nos aïeux des années 1880, ni même à nos grands-pères ou arrière-grands-pères de 1910 ou 20, ou même à nos grands-parents, ou même aux plus sages d'entre nous, d'avoir ignoré la crise écologique, par exemple dans les années 50, parce que simplement les informations n'étaient pas disponibles pour faire percevoir le caractère global de cette crise écologique. En revanche, depuis les années 1970, les informations, les études scientifiques, les rapports, les alarmes des écologistes n'ont cessé d'être diffusées, d'être transmises, et pourtant, globalement, nos sociétés n'ont pas vraiment tenu compte de ces informations et n'ont pas orienté nos économies vers une politique permettant d'éviter l'aggravation de cet environnement. Alors voilà une pause bienvenue pour boire de l'eau. Cette situation fait toujours penser au gag du capitaine Haddock. Ah, de l'eau, oui. Ouais, parce que parler, ça assèche. Alors, ben justement, ça tombait bien, c'était une pause dans le raisonnement aussi. Parce que jusqu'à présent, je vous ai proposé une analyse en termes factuels, basés sur des informations économiques et environnementales, si on peut dire. Je crois qu'on peut aller plus loin en essayant de raisonner en termes d'analyse de psychologie collective. Et de dire finalement que la victoire la plus grande du capitalisme de la dernière période a été d'achever la philosophie individualiste, c'est-à-dire de nous convaincre que nous sommes essentiellement des individus responsables de ce que nous sommes. Si nous réussissons dans l'existence, eh bien nous sommes des personnes tout à fait extraordinaires. Si au contraire on échoue, eh bien il ne faut nous en prendre qu'à nous-mêmes et à nos défauts, eux aussi tout à fait extraordinaires. Alors, vous allez bien sûr me dire, attendez, c'est quand même pas nos amis Reagan bon, et toute la bande qui ont quand même créé l'individualisme, et vous aurez tout à fait raison. C'est même l'individualisme a été un mouvement important de libération ou d'émancipation dans la culture occidentale, qui est au fondement de la culture occidentale depuis la Renaissance, et qui était une affirmation de la capacité des individus, des personnes à penser par eux-mêmes, à définir leur destin individuel par rapport à des formes d'assujettissement collectif qui existaient sans doute lourdement auparavant. Mais cet individualisme, cet humanisme était toujours tempéré par des sentiments et des structures de solidarité, solidarité traditionnelle longtemps des communautés, des corporations, des villages, et puis des églises, et puis au 19e et au 20e siècle, et par le mouvement ouvrier, le sentiment de la culture de la solidarité ouvrière. Et puis très concrètement, cet humanisme, excusez-moi, je suis fatigué. Cette affirmation de l'individualisme était tempérée par des structures d'un état social avec, à partir de la fin du 19e siècle, surtout en Europe, bah, des structures très concrètes telles que la sécurité sociale, le droit du travail, les retraites, etc. Et bien, dans la dernière période, il y a vraiment eu un triomphe culturel et idéologique du capitalisme, et je préfère presque employer le terme culturel plutôt que idéologique, c'est de poser l'individu comme figure dominante de la société, notamment par un ustensile et des méthodes tout à fait importantes. J'ai souligné le caractère banal de la télévision. Ce qu'il faut quand même bien se rappeler, c'est que la fréquentation à haute dose de la télévision, qui paraît maintenant naturelle aux plus jeunes d'entre nous, puisque on nous dit, les statistiques nous disent qu'en moyenne les individus, les personnes regardent plus de 3 heures par jour la télévision, eh bien est un caractère historiquement tout à fait nouveau, c'est-à-dire que dans les années 50, 60 et même 70, la télévision pénétrait beaucoup moins, a joué un rôle beaucoup plus faible dans le conditionnement, en tout cas dans la constitution de la culture générale. Et par ailleurs, pour la publicité, eh bien la publicité a joué, en accord évidemment avec ce développement extraordinaire de la télévision, eh bien un rôle tout à fait important. Et donc vous voyez bien le caractère à la fois orienté vers la consommation. Vous voyez aussi comment la publicité s'articule bien avec le mécanisme de la rivalité ostentatoire que j'ai essayé de vous décrire. Donc voilà, ça c'est les mécanismes qui ont permis de poser, en dehors d'un travail idéologique, lui aussi tout à fait important, et là, quand on parle de la néolibérale, il y a vraiment eu effectivement un travail en amont tout à fait important, mais donc affirmation de l'individualisme et de l'individu comme figure dominante de la société, et puis qui s'est traduit très concrètement, eh bien, par un affaiblissement systématique des instruments de régulation collective et donc de protection des faibles, la sécurité sociale, une fois de plus, le droit du travail, la retraite, et là encore avec, j'allais dire, facilité par le fait que le sentiment de la solidarité, par exemple dans le travail, dans la lutte syndicale ou politique, eh bien s'affaiblissait par cette idée de l'individualisme comme figure dominante. Et puis, un autre aspect est que il y a une extension en quelque sorte de la marchandisation à des domaines et dans une ampleur qui n'était pas envisagée ni connue dans les périodes antérieures. Marchandisation des humains avec un commerce des femmes par la pornographie ou par la prostitution qui a pris là encore une ampleur tout à fait extraordinaire, industrielle. Je vous rappelle que l'exploitation sexuelle est estimée concerner près de 4 millions de nouvelles victimes par an. Marchandisation du travail humain aussi, avec de plus en plus d'enfants qui sont mis au travail dans un certain nombre de pays, voire d'esclaves, ou plus exactement, enfin exactement je ne sais pas, le Bureau international du travail souligne l'importance du travail forcé qui est de plus en plus, qui prend une importance là aussi grande, et on peut penser très concrètement, c'est pas seulement des données exotiques, c'est très souvent par exemple le travail l'emploi des travailleurs saisonniers maghrébins dans les pays, le sud de l'Espagne, le sud de la France, le sud de l'Italie, comme par exemple un fait divers dont vous avez sans doute entendu parler dans le sud de l'Italie, a montré concrètement comment ça se jouait. Et puis marchandisation aussi des organes, notamment des reins, entre fournisseurs des pays pauvres et consommateurs des pays riches, et puis maintenant avec ce qu'en novlangue on appelle les gestations pour autrui, eh bien la commercialisation des bébés à naître. Et puis la marchandisation s'étend aussi eh bien à ce que l'on peut appeler les biens communs. Alors ça sera les espaces fonciers, les fréquences radioélectriques, l'atmosphère avec le marché du carbone, la biodiversité avec par exemple ce qui était au cœur, enfin, un des moteurs de la bataille sur les OGM, c'était l'enjeu des brevets sur les semences des différentes espèces cultivées. Et puis un aspect tout à fait important de cette marchandisation, et qui est peut-être moins apparent, mais à mon avis qu'il faut avoir bien en tête, c'est la marchandisation de la sécurité publique, c'est-à-dire le fait que de plus en plus les instruments de ce qu'on appelait le caractère régalien de l'État, eh bien, est privatisé et rentre dans une logique d'appropriation et de recherche du profit. Alors ça fera, vous savez par exemple que on compte dans quasiment tous les pays européens maintenant autant de personnes employées dans ce qu'on appelle les entreprises de sécurité, les vigiles, que dans les forces de police, que la privatisation des prisons déjà bien engagée aux États-Unis commence aussi à se faire grâce au formidable régime qui nous gouverne depuis quelques années, et puis même aux États-Unis, eh bien, avec la privatisation de l'armée et une entreprise comme Blackwater, qui a changé de nom depuis un an, qui emploie près de 100 000 mercenaires qui sont envoyés, utilisés dans des terrains d'intervention tels que l'Afghanistan ou l'Irak. Alors, à ce point de l'exposé, je pense qu'il est sans doute utile de revenir après tout, d'en venir à ce que l'on appelle le capitalisme, pour bien poser les bases du raisonnement. Et sans m'opposer à une définition assez classique du capitalisme qu'on aura sans doute tous en tête, c'est-à-dire système dans lequel des entrepreneurs accumulent par l'exploitation de la plus-value du capital et par la recherche du profit, etc. Sans refuser cette définition, je pense qu'il est plus pertinent pour bien comprendre l'époque actuelle d'avoir une définition différente que j'emprunte dans le sillage d'un autre économiste, Karl Polanyi, et de définir en fait le capitalisme comme une philosophie ou une anthropologie. C'est-à-dire c'est un système qui considère que personne humaine est essentiellement un individu et dont la motivation essentielle est la recherche de la maximisation de son intérêt pour lui ou pour le tout petit cercle de ceux qui l'entourent, et que par ailleurs dans cet univers où les individus sont à la fois en compétition les uns avec les autres et sont dans la recherche de la maximisation de leur intérêt, eh bien la société finalement n'existe pas. Margaret Thatcher le disait avec les qualités de franchise et de clarté qu'il faut lui reconnaître, elle disait mot pour mot, la société, ça n'existe pas. Parce que pour les capitalistes, la société, en fait, entre ces individus en compétition, eh bien, elle a vocation en quelque sorte, les relations sociales seront le mieux assumées par la relation commerciale, par la marchandisation. Et donc, c'est une société dans laquelle on va étendre à tous les domaines et toutes les activités humaines, et parfois même les sentiments, le principe de la relation commerciale, le principe de la mise en marché. Alors, dès lors, pourquoi vouloir sortir du capitalisme, et peut-être d'ailleurs on est en train d'y t'en sortir, mais ça sera, je pense, une part de la discussion. Pourquoi sortir du capitalisme ? Eh bien, il paraît clair que ce n'est pas le système qui a laissé se développer la crise écologique au point de péril que nous approchons, ce n'est pas le système qui a laissé se renouveler, repartir une crise sociale d'une ampleur de plus en plus manifeste, qui va être capable de le corriger, sauf à changer tellement dans ses principes et dans ses modes de régulation que ça ne s'appellerait précisément plus le capitalisme. Alors, comment aller vers un post-capitalisme écologique et social ? Je dirais d'abord, je ne vais pas avoir les outils et les clés magiques pour le faire, parce que je crois fondamentalement que c'est la société, dans sa créativité, dans son inventivité, qui va trouver, qui va définir ces chemins de sortie et ces façons différentes d'être, mais quand même quelques pistes. Et surmontant en quelque sorte ces pistes, l'idée que une clé essentielle se trouve dans ces enjeux culturels, dans cette idée qu'il nous faut retrouver une psychologie collective de la solidarité, arriver à sortir de cet archétype individualiste dans lequel chacun d'entre nous, parce qu'il est très difficile, il est même impossible, malgré le travail de réflexion, de discussion que nous pouvons avoir, eh bien, d'échapper aux publicités le matin quand on se réveille, d'échapper à tout ce discours qui émane en permanence de l'appareil de communication. Mais donc l'enjeu, il est vraiment là. La clé, il est là, c'est de substituer des mécanismes, si j'ose dire, de solidarité, d'échange, de relations autres que marchandes, et de sortir de cette logique de l'individu. D'une certaine manière, on parlait en venant ici un peu du pouvoir. Je ne sais pas si ça viendra dans la discussion, mais l'idée m'en vient là. Il y a un enjeu tout à fait clair dans la recherche du pouvoir et donc les solutions politiques à justement sortir de ces logiques de compétition, d'accès au pouvoir pour rentrer dans des logiques collectives, de trouver les moyens ensemble de trouver des bonnes solutions. Et puis après cette idée générale, eh bien, un certain nombre de pistes. D'abord nous dire que nous n'avons pas à inventer... Alors ça c'est un chien. Bon, ça n'intéresse pas, on est très content. Ou alors je voulais dire le post-capitalisme écologique, social et joyeux tant qu'à faire. Donc bon, avec quelques petites facéties comme ça qui étaient absolument imprévues. Oui. Voilà, on n'a pas à tout inventer. On n'a pas à faire une utopie comme si... Je reviens à cette idée de fatalité dont parlait Nicolas tout à l'heure. Voilà, ce que nous dit le Monde en ce moment... Enfin, le Monde, pas le journal. Excellent journal, quoi, discutable. Ce que nous dit le bruit médiatique, le bruit de l'idéologie capitaliste, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. C'était Tina, there is no alternative. Ce que disait Main, quand ça qui a... Voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai qu'on sait que ça ne marche pas. C'est vrai que ça dégrade l'écologie. C'est vrai que, ouais, il y a de plus en plus de pauvres. C'est vrai qu'il y a une crise alimentaire. Mais il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. Voilà, c'est la fatalité là, qui va nous dire. Et puis autrement, vous êtes totalement utopiste. Eh bien non. Non, il n'y a pas à inventer l'utopie. Pourquoi ? Parce que, très largement, les façons de vivre d'être ensemble, de produire, d'échanger, d'imaginer, sont là déjà. On regarde les myriades d'expériences, d'alternatives, de façons d'être différentes. On a parlé des AMAP, on a parlé des luttes, par exemple, sur le collectif FLIN, l'éducation populaire, les coopératives, les monnaies alternatives, les colocations, l'épargne solidaire, les écoquartiers, les logiciels libres. Voilà, mille choses partout qui se font, et pas seulement ici, pas seulement dans ce pays, plein de façons d'expérimentation, de façons d'être ensemble, mais qui trop souvent se vivent comme face au sentiment, avec le sentiment d'impuissance qu'on a devant l'immensité, la force inébranlable apparente de ce système. Ben on dit, bon, ben moi je vais me bagarrer dans mon coin avec ceux qui sont autour de moi, et on est dans une logique de niche, presque de cultiver notre jardin militant. Si j'ose cette image, eh bien, il y a un enjeu tout à fait essentiel de faire en sorte que de dire que bah, toutes ces possibilités sont réellement, d'abord elles montrent concrètement qu'elles ont un contenu concret et réaliste, mais de les penser ensemble, de les relier, d'en faire une sorte de réseau, de la même manière que finalement des atomes sont, se lient les uns aux autres et vont former des molécules, et finalement l'ensemble de cette myriade d'expériences, d'alternatives, de voies différentes ont vocation justement à ne pas être alternatives, mais les penser comme étant le véritable moteur de ce qui va être, de ce qui doit être, de ce qui peut être la masse critique du fonctionnement de la société. Donc, un enjeu de nouer ensemble ces expériences, ces démarches alternatives. Un autre point important, eh bien, c'est de faire fond, à tous les sens du mot, sur l'économie sociale et solidaire, sur le principe coopératif en tant qu'entreprise, en tant que façon de produire. C'est-à-dire, même pour redire les choses de manière claire et autre, eh bien, reposer très clairement la question de l'appropriation collective par les travailleurs des moyens de production. C'est-à-dire que, d'une part, on sait déjà que l'économie sociale et solidaire existe et a un vrai poids. Les économies, enfin, c'est estimé peser en Europe, dans l'Union européenne, entre 10 et 15% du PIB. On a énormément d'exemples de mutuelles, d'associations, de coopératives qui fonctionnent bien. Et bien se dire qu'il y a là une vraie domaine à étendre, aussi bien que ce soit celui de la part de travailleurs. Je pense qu'on a tous entendu parler, enfin moi j'en ai vu très concrètement des exemples d'entreprises qui étaient mises en faillite par une mauvaise gestion des capitalistes, et bien les travailleurs, c'est toujours une sorte de miracle, de magie plus exactement, mais se mettent ensemble et trouvent les moyens de par le principe coopératif, de refaire démarrer leur travail. Je vous rappelle les bases de la coopérative, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire au-dessus des uns des autres, tout le monde a la même part, quel que soit son poste dans l'entreprise, les décisions sont prises en commun, et une voix un homme, absolument. Et puis on prend les décisions en commun et on répartit les excédents de gestion une fois qu'on a... Tiens, il repasse. Il est de plus en plus joyeux, il est sorti. Donc voilà. Et donc, en faire fond, c'est à la fois se dire qu'en tant qu'expérience collective d'entreprise, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et puis, par ailleurs, c'est des choix politiques clairs. C'est-à-dire que il y a eu un rapport il y a quelque temps, par exemple, qui disait que l'État en France alloue près de 75 milliards d'euros chaque année en soutien aux entreprises. Eh bien, il est clair que un certain nombre, et qui devrait être conséquent, de ces milliards pourrait venir en soutien aux entreprises coopératives. Alors, il ne s'agit pas de dire que les coopératives peuvent être l'ensemble du système économique, toutes les entreprises, mais en tout cas, elles peuvent prendre une part beaucoup plus importante que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Se dire aussi que il ne s'agit pas forcément, il ne s'agit pas de sortir de l'économie de marché. Et je distingue bien, on en parlera peut-être dans la foulée de Fernand Braudel, de l'historien Fernand Braudel et de Karl Polanyi, eh bien l'économie de marché et le capitalisme. Et on peut considérer que dans son principe de rencontre de l'offre et de la demande, il y a un principe d'allocation des ressources, comme disent les économistes, qui fonctionne assez bien dans le marché, dans l'économie de marché. Mais ce qui pose problème, c'est quand elle devient généralisée, c'est-à-dire l'économie de marché est sans doute utile et efficace dans un certain ordre de compétences pour produire un certain nombre de biens et de services, mais en revanche n'a pas vocation, il faut que je parle plus près, n'a pas vocation à recouvrir l'ensemble de l'économie sociale. Donc se dire l'économie de la société. Donc se dire que eh bien, l'économie de marché sera bornée de manière claire, bornée d'abord dans un certain nombre de règles, que ce soit en ce qui concerne l'environnement, en limitant très clairement les productions, les biens en fonction de leur impact sur l'environnement, et puis par ailleurs par rapport à droit du travail, c'est-à-dire se dire il n'est pas possible de produire un certain nombre de biens, par exemple par des enfants. Et puis, limiter ou borner cette économie de marché en disant il y a un certain nombre de domaines qui ont une telle importance pour la société dans son ensemble, qui ont une telle importance par rapport aux générations futures, et ça, en revanche, on sait que le marché est myope, ne voit pas loin, eh bien, on retire un certain nombre de domaines de l'économie de marché et on dit qu'ils doivent relever de la gestion collective, de la souveraineté populaire. Et là, on peut penser, enfin, voilà, ça concerne, on peut pas, on y pense, la santé, l'éducation, la culture, l'agriculture, l'énergie, sans doute les transports.
La sécurité publique.
Pardon ?
La sécurité publique.
Ah, la sécurité publique, ah oui, absolument, oui, tout à fait, oui, ça, c'est, il vaut mieux pas que ce soit dans le marché. Voilà. Autre piste, eh bien, par rapport au PIB, au produit intérieur brut, j'ai été amené plusieurs fois dans le cours de cet exposé à faire référence au PIB, mais c'était presque par commodité de langage et de raisonnement, mais il est bien clair qu'il y a là un enjeu tout à fait essentiel et réellement politique, c'est pas seulement un débat académique ou intellectuel entre économistes, non, il s'agit bien de changer ce thermomètre tout à fait faussé de notre activité qu'est le PIB, et qu'on nous rabâche sans arrêt, même si je ne sais pas combien de fois on entend le mot croissance par jour, que ce soit à la radio, en lisant le journal ou ailleurs, ou dans les discours des hommes politiques, ils oublient toujours de préciser qu'il s'agit de la croissance du produit intérieur brut.
Même quand c'est négatif.
Oui, alors en plus, ils parlaient l'année dernière de croissance négative. Enfin, bon, non, mais qu'ils aient beaucoup de bouillie quelque part dans la tête, ça c'est. Mais bon. Et donc, voilà, et y a un enjeu tout à fait essentiel avec ce PIB, bah, c'est que simplement, il ne mesure pas un caractère qui est devenu tout à fait essentiel dans notre activité collective, qui est l'impact sur l'environnement de nos activités, précisément. Et là, y a un biais majeur, c'est un peu comme un bateau qui fonctionnerait avec une boussole qui marque systématiquement une erreur de 40 degrés, et voilà, bon. Donc il y a vraiment un enjeu sur changer cette façon de représenter l'activité et de dire, ben voilà, le thermomètre est là et c'est bien, c'est mal. Donc une batterie d'indicateurs économiques à transformer. Un point tout à fait crucial, ben, c'est de réduire les inégalités de manière drastique. On a parlé des paradis fiscaux, bah, ça fait au minimum 11 000 milliards de dollars à récupérer pour nos économies. On a parlé d'inégalité de revenus, et bien poser de manière claire la revendication et l'objectif d'un revenu maximal admissible comme étant tout à fait essentiel. Et alors pourquoi réduire les inégalités en soi? Des sans doute des motifs moraux ou de justice suffiraient à cet objectif, mais je vous rappelle, si c'est pas absolument clair, que moi je pars de la question écologique et que l'enjeu de réduction des inégalités est tout à fait central si on veut prévenir l'aggravation de la crise écologique qui est à mon sens le facteur absolument dominant de notre période historique. Eh bien, si l'on veut prévenir l'aggravation de la crise écologique, dans le principe c'est simple, c'est réduire nos prélèvements de notre impact sur la biosphère, et réduire notre impact sur la biosphère, c'est dans le principe assez simple aussi, c'est réduire nos prélèvements d'eau, de zinc, d'uranium, de pétrole, et puis réduire nos rejets d'eau polluée, de déchets radioactifs, de gaz à effet de serre, de chlorofluorocarbone, etc. Et réduire ces prélèvements et ces rejets, et bien dans le principe, c'est là encore assez simple, ça signifie réduire notre consommation matérielle et notre consommation d'énergie. Alors est-ce que, bien sûr je suis un peu rapide, est-ce que c'est au, donc je n'ai pas beaucoup évoqué les inégalités nord-sud ou très rapidement, est-ce que c'est aux 3-4 milliards de personnes qui vivent sur cette planète avec encore moins de 4-5 dollars par jour que l'on va demander de réduire la consommation matérielle, la consommation d'énergie? Évidemment non. C'est essentiellement dans nos sociétés qui restent très largement, collectivement, les plus riches, environ 1,5 milliard de personnes sur Terre, plus aussi les classes dirigeantes des pays émergents qui rentrent dans le jeu, à qui l'on va proposer ou d'aller vers cette baisse de la consommation matérielle et de la consommation d'énergie. Mais alors, est-ce que dans nos sociétés, c'est aux personnes les plus pauvres, quasiment dans tous les pays, 15% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et même 30% en général qui sont dans une situation de précarité, c'est-à-dire une situation de revenu très faible, qui, s'il y a le moindre accident, les fait tomber dans cette trappe à pauvreté? Évidemment, non. Sans doute même, il y a un enjeu d'augmentation de la consommation matérielle et de la consommation d'énergie pour ces groupes sociaux. Donc, et c'est pas seulement à Bolloré, Arnaud, Pinault et tous leurs collègues qu'on va demander, on va le faire très fort, mais ils sont pas assez nombreux pour que la réduction de leur consommation suffise à changer l'empreinte écologique globale. Donc c'est bien à l'ensemble des classes moyennes de ces pays les plus riches à qui l'on propose de réduire la consommation matérielle et la consommation d'énergie. Mais pour la réaliser, il y a tout à fait essentiel de réduire les inégalités. Ben pourquoi ? Parce qu'il est clair que nous ne pourrions pas aller dans cette direction et changer quand même, ce conditionnement culturel, ces habitudes, cette façon de vivre, si on n'avait pas le sentiment que ça se faisait par l'ensemble de la société de manière équitable, de manière partagée. Et donc ça implique que, il y a une réduction forte des inégalités, c'est-à-dire que ceux qui sont en haut ne puissent pas continuer à vivre de leur façon tout à fait excentrique. Un deuxième enjeu, c'est de changer le modèle culturel aussi, qui joue et qui va jouer encore pendant longtemps un rôle tout à fait important, c'est-à-dire réduire les inégalités pour changer le modèle culturel stimulé par ceux qui sont au sommet de la société. Et puis il y a une troisième raison tout à fait essentielle qui rend indispensable cette réduction des inégalités, parce qu'il s'agit de récupérer la part de la richesse collective qui a été volée par ces messieurs et par ces dames, pour nous permettre de faire cette transition vers un post-capitalisme écologique et social, c'est-à-dire se dire, d'abord pour aider ceux qui vont se trouver dans une difficulté par mutation de l'appareil industriel, par exemple, on parle de voitures, il y a bien un enjeu pour opérer la conversion de l'industrie automobile, et d'ailleurs pas seulement en Europe, mais bon, ne rentrons pas dans toutes les discussions, mais voilà, comment faire. Et puis, par ailleurs, pour faire en sorte que on stimule des activités qui ont à la fois un impact écologique beaucoup plus faible, qui répondent à des vrais besoins sociaux et qui ont une capacité de création d'emplois tout à fait importante. Et bien les domaines qu'on a cités, notamment la santé, l'éducation, la culture, une autre agriculture, un enjeu tout à fait essentiel de création d'emplois dans l'agriculture par la réappropriation collective du foncier, ou en tout cas la destruction des mécanismes de spéculation sur les fonciers, l'énergie aussi dans tous ces domaines de l'économie de l'énergie. Enfin voilà, il y a un enjeu de financer cette mutation, de rendre possible cette mutation vers un autre système économique beaucoup moins écologique, beaucoup plus écologique, et qui répondra beaucoup mieux à des besoins sociaux réels, c'est-à-dire en quelque sorte dire oui, il y a une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie, mais en revanche on va avoir plus de, j'allais dire, satisfaction, parce que une meilleure santé, une meilleure éducation pour les enfants, sans doute d'autres liens sociaux et d'autres cultures et d'autres façons d'être ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je ne conclus pas, pour laisser tout à fait ouvert le champ à une éventuelle discussion. Merci de votre attention.
Bien, si vous le voulez bien, on va procéder à la collecte de questions du public, de questions, hein, pas de... pas de proposition. Chacun ici n'a pas à présenter son livre parce que c'est trois quarts d'heure par livre et donc on n'y arrivera pas. Donc vous vous limitez à poser des questions et on en regroupe quelques-unes et au fur et à mesure Hervé Kempf y répondra. On fait passer un micro.
Voilà, il faut parler bien près du micro parce qu'en fait, le chien qui est venu gambader parmi nous était en fait avec un certain nombre de compagnons humains qui sont dehors, qui n'ont pas pu rentrer pour des raisons de sécurité, et donc parler fort pour qu'ils l'entendent bien et que le chien aussi entende bien. Je crois que lui, il pense à autre chose quand même.
Oui, une question par rapport pour le chien, mais pour vous, bien sûr. Pour cette question un petit peu tabou, en général, dès qu'on la pose, avant même d'avoir fini, on se fait traiter de malthusien, c'est le fait de la démographie. Est-ce qu'à votre avis, un capitaliste, c'est sûr qu'il est en faveur de plus de population, c'est l'armée de réserve du capital, bien connu, mais vous, quel est votre sentiment? J'ai bien compris que vous demandez à chacun de nous de diminuer notre empreinte écologique. Mais est-ce que c'est suffisant pour sauver la planète? Est-ce qu'on peut faire l'économie aussi en ce qui concerne le niveau de population? Est-ce qu'on n'a pas déjà dépassé un niveau de population au niveau de la planète qui frise le niveau admissible?
Je réponds question par question. Deux, trois, d'accord.
Quelques jours, j'écoutais à la radio l'émission de politique où Olivier Besancenot était invité, donc il développait son discours habituel, entre autres limitation du salaire à 8000 euros par chacun, 8000 euros par mois de sujet pour vivre à chacun. Donc il y a des gens appelés, il y a un ouvrier qui avait appelé, et puis un jeune ouvrier qui lui disait, moi, ce qui me fait rêver, c'est d'un jour de pouvoir gagner plus. Donc il rêvait de devenir patron et de devenir riche, parce que c'était son rêve à lui. On ne pensait pas que vouloir l'égalitarisme, ça engendre une certaine frustration. Donc moi, on se dit que le discours de Sarkozy, de gagner plus, qu'on ne peut pas travailler plus pour gagner plus, a séduit un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai beaucoup de copains qui votent à droite. Et bon, la droite, c'est pas... Quand je dis qu'ils votent à droite, ils votent pas à PS, ils votent UMP.
Comment situez-vous la science, la recherche, l'évolution des techniques?
Encore une et puis on va répondre.
Oui, j'ai tout à fait apprécié votre discours, mais je ne vois pas comment on pourrait sortir de ce fameux capitalisme sans sortir de l'Union européenne. Ça, on n'a pas du tout évoqué le problème. Hein. Je pense que c'est essentiel.
Ah bah je vais reprendre le micro, mais je vous le rendrai après. Hein.
Oui.
C'est pas...
Ouais.
Je vais fermer parce que sinon ça va.
Ah oui. Bon, bah c'est des questions assez lourdes au bon sens du terme. Je vais essayer de ne pas être trop long sur chacune, parce que chacune. Je dirais pas que chacune pourrait être l'objet d'un livre, mais en tout cas d'un article assez conséquent. Rapidement donc un peu à l'âge, sur la démographie, oui, il y a un problème, mais il est tout à fait lié à ce dont on a parlé autrement, et par ailleurs, les moyens d'action... Non, mais ils sont liés à ce dont on a parlé dans toute la soirée. C'est-à-dire que, d'abord, il faut considérer toujours, quand on parle de démographie, de qui on parle. Et considérer du point de vue de l'empreinte écologique, un bébé aux États-Unis ou un bébé en France n'a pas le même poids l'empreinte, la même empreinte écologique qu'un bébé né au Niger. Et donc, je ne sais pas si l'augmentation trop importante, je prends l'exemple du Niger que je connais un peu, justement, j'ai fait un reportage sur la question démographique, et donc c'est encore une augmentation de une croissance démographique de près de 3% par an, donc c'est absolument insoutenable, ça c'est très clair. Mais en tout cas, considéré du point de vue planétaire, eh bien, un bébé américain, un bébé français a un impact beaucoup plus lourd qu'un bébé nigérien. Donc d'une certaine manière, la limitation démographique, si on pensait vraiment qu'il faut la susciter, ça devrait être presque dans ces pays qu'elle se posait. Après tout, c'est pas tout à fait banal. Vous savez que l'augmentation de la population aux États-Unis est finalement extrêmement importante. Donc ça c'est le premier point. De quelle population on parle? Le deuxième point, c'est que c'est tout à fait lié à des facteurs à la fois politiques et des facteurs culturels. Je vais juste prendre l'exemple du Niger. En gros, en schématisant, on sait que le levier majeur sur lequel on peut transformer une attitude par rapport à la démographie, eh bien, c'est l'éducation des jeunes filles. Or, dans ces pays, et c'est quand même très largement pour des raisons de politique et des raisons de politique publique, eh bien, il n'y a quasiment pas d'éducation pour les jeunes. Il y a un taux d'analphabétisme qui est extrêmement faible. Il y a très peu d'écoles qui fonctionnent réellement bien. Les jeunes filles ne sont pas éduquées, donc ne peuvent pas vraiment rentrer dans cette logique de contrôle familial, et donc très schématiquement on a encore une augmentation démographique qui est très importante. Je veux dire par là que oui, c'est tout à fait un problème, mais qu'il faut considérer de manière objective et de manière politique, et en disant qu'est-ce qui fait que des États comme le Niger, des États comme une très grande partie des pays africains continuent à avoir une démographie très importante. Dans la très grande majorité des cas, on retrouvera ce phénomène d'absence d'éducation presque primaire et d'éducation des filles qui renvoie aux politiques publiques qui sont presque inexistantes, parce que FMI, parce que appropriation de la rente dans le cas du Niger, appropriation de la rente par l'oligarchie, et pas de... Voilà. Donc moi je n'ai pas de problème avec la question démographique, à condition qu'on ne la pose pas justement de manière malthusienne, et c'était pas du tout votre esprit, mais comme souvent, c'est un débat qui est monté depuis 6 mois, 1 an, très fort dans les discussions autour de l'écologie, qu'on les repose de manière politique, et qu'on se demande qu'est-ce qui, culturellement et politiquement et économiquement, fait que il y a une augmentation de la population. Donc, et c'est pas contradictoire avec le reste de ce qu'on a dit, c'est-à-dire aller pour les pays les plus riches vers une baisse de la consommation matérielle et de la baisse de la consommation d'énergie, c'est aussi donc investir beaucoup plus, tourner beaucoup plus l'activité collective vers les domaines dont on a parlé, dont l'éducation. C'est évidemment, non, puisqu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi une logique de rééquilibrage en quelque sorte des niveaux de vie et des modes, des économies, par exemple entre Nord et Sud, et dans le cas de l'Europe, il y a un enjeu tout à fait essentiel de voir comment on peut aider des pays qui ont effectivement besoin d'un coup de pouce, en tout cas qui ont besoin qu'on n'ait plus des politiques à leur égard de post-colonialisme, d'endettement, enfin vous connaissez le mécanisme assez bien. Voilà, je répondu rapidement à cette question. Quant à l'ouvrier qui veut gagner plus, je vais vous dire, moi j'ai fait mes comptes hier, fin du mois, j'aimerais bien gagner plus, voilà, on est clair. Mais maintenant reprenons ça et réfléchissons davantage. Et puis là je distrais un gré, enfin, si, parce que généralement les ouvriers ou les employés, quand ils ont du boulot, ils gagnent moins que sans doute, en tout cas que moi, ça c'est clair, et que sans doute un certain nombre de personnes dans cette salle. Mais à la limite, on est tous dans cette logique de vouloir gagner plus. Alors d'abord, très largement, moi je renvoie à ce que j'ai essayé d'exposer, c'est-à-dire ce conditionnement qui nous dit quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup, ou qui réussit, c'est un chef d'entreprise, parfois ça sera un footballeur, mais enfin bon. Alors qu'il y a eu une culture ouvrière très largement, très forte, où voilà, n'étant pas moi de milieu ouvrier ou prolétaire, j'en ai une connaissance extérieure et par quelques conversations, mais en tout cas, il y avait par exemple d'autres systèmes de référence dans des milieux ouvriers, dès lors qu'ils avaient un bon boulot, qu'ils avaient une collectivité forte, qu'ils avaient une relation, j'allais dire, équilibrée en termes de rapport de force par rapport à leur patron, qui faisait que, ben non, les gens ne rêvent pas forcément de gagner plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la politique... Même, et quel est l'enjeu, je réinsiste sur la baisse de la consommation matérielle, la baisse de la consommation d'énergie globale, donc j'ai surtout parlé pour les classes moyennes, et je crois avoir bien précisé que pour les revenus les plus bas, la question ne se posait pas, mais c'est aussi pour faire en sorte que nos sociétés soient beaucoup plus tournées vers, une fois de plus, je répète, la santé, l'éducation, la culture et un certain nombre de choses. Et ça, on peut en discuter à tout le monde, mais quel est l'enjeu essentiel, c'est que pour chacun, c'est d'avoir des revenus d'existence, donc un emploi, qui à la fois nous permettent d'être, je dirais pas fiers, mais enfin contents du boulot qu'on fait, qui permettent d'avoir des revenus d'existence, qui fassent vivre dignement notre famille, et puis d'avoir un bon système éducatif, qui fasse que nos enfants ils sont bien éduqués, d'avoir un bon système de santé, qui fait que quand on a mal aux dents, ou qu'on a quelque chose d'encore plus en kikinant, ben, et qu'on ne pouvait pas payer par son seul salaire, et ben on soit soigné, qu'on ait une culture qui soit pas trop chère, 10 euros la place de cinéma, ou 30 euros la place de concert, ou voilà. Et je pense que quand on explique, et que par ailleurs une société où il y aurait peut-être plus de liens sociaux, plus de collectifs que je rentre chez moi le soir et je regarde le football tout seul avec ma bière. Dans mon lotissement. Et donc voilà, je pense que cette logique de dire mais attends, on peut vivre dans une société différente où il y a une question d'emploi, et je pense que les gens ne pensent pas tellement à s'enrichir, même si, bon, au cours d'une carrière, c'est, on voit ce que c'est en rien. Mais avoir une existence digne dans une société beaucoup plus heureuse et avec un certain nombre de garanties, c'est pas le terme qu'il faut employer, mais voilà, que des choses absolument essentielles qui sont précisément santé, éducation, enfin je ne vais pas vous faire un dessin, mais la politique de Sarkozy, mais qui serait celle des États-Unis, c'est l'Italie, etc., qui sont en train, au nom de la privatisation de l'individu et de tout ça, de démolir, c'est-à-dire démolir, parce qu'ils privatisent la santé, ils privatisent l'éducation, et les classes populaires, il n'y a plus de... Enfin, vous voyez. Et donc, cette balance, je pense qu'elle est tout à fait, j'ai quand même des discussions, tout à fait compréhensible. On ne se bat pas pour être plus riche, on se bat pour avoir société équilibrée. Et moi, je suis très persuadé que le capitalisme à l'heure actuelle, dans sa phase-là de dégénérescence, eh bien, déséquilibre totalement la société. Troisième question, alors c'est aussi... je réponds très sommairement, hein, je vous prie de m'excuser. Science et recherche, quelle place je leur fais ? Une très grande place. D'autant plus que moi je suis journaliste scientifique, effectivement, Dominique l'a rappelé au début, j'ai bossé dans le journalisme technologique, donc tous ces gadgets m'amusent beaucoup, et je crois avoir, sans être scientifique moi-même de formation, une assez bonne compréhension de comment ça fonctionne. Je dirais que il y a plusieurs aspects dans la réponse. Alors je ne les hiérarchise pas, mais d'abord... Là, le capitalisme, en gros, veut nous dire la technologie va répondre au problème. Il y a un problème d'émissions de gaz à effet de serre par les transports. Ah ben, on va faire une auto électrique. Au lieu de poser la question, pourquoi a-t-on besoin d'autant de transports ? Pourquoi a-t-on un urbanisme avec des gens qui viennent tous les matins sur la N12 en venant de 50 km ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des transports collectifs ? Pourquoi on ne se pose pas les questions, j'allais dire, d'urbanisme, d'ingénierie, de relations sociales et de systèmes sociaux de déplacement. Et incidemment, donc ça c'est le premier point. Alors je pourrais prendre plein d'autres exemples, ça serait pareil pour l'énergie. Ils nous disent, on va mettre plein d'éoliennes partout, on va mettre plein de nucléaire partout, mais on n'arrive pas à baisser la consommation d'énergie. Donc là, il y a un enjeu de baisse de la consommation d'énergie. Mais pourquoi ça les arrange de mettre des éoliennes partout, du nucléaire partout? Parce que là, en revanche, c'est en capital, en profit, c'est beaucoup plus intéressant. Alors que rentrer dans une logique d'économie d'énergie, ça génère moins de profit, ça génère autant de techniques et de savoir-faire, mais ça dissémine parce que c'est beaucoup de petits boulots. Voilà. Donc en fait, à l'heure actuelle... Alors, si on avait plus de temps même, on pourrait distinguer la science et la technologie. Et on a parlé d'OGM, moi j'ai beaucoup bossé sur les OGM, donc le cadre des OGM est très intéressant parce qu'on voit l'appropriation de la recherche, d'une part, puisque ça a été, les OGM ont été pour l'essentiel poussés par des firmes entreprises qui avaient des objectifs de profit rapide, et par ailleurs, de passage très rapide de la science à la technologie. C'est-à-dire, pas de recherche de la connaissance et d'évaluation de tous les problèmes qui se pose quand quelque chose de nouveau apparaît, mais un passage très rapide, et en l'occurrence trop rapide, à une application. Donc ça, c'est le premier terme, c'est que moi j'analyse la science et la technologie par rapport à leurs conditions politiques. Voilà. Un deuxième aspect des choses, c'est de dire, ils nous présentent la science comme suivant un chemin unique. Par exemple, l'auto... On passerait de l'auto thermique à moteur thermique vers l'auto électrique. Non. La technologie, la technique, ça peut prendre différentes voies. Sans même prendre l'exemple du vélo, qui est quand même un objet d'une technicité tout à fait géniale, et où il y a beaucoup de recherches, mais si on rentre dans une logique différente de transport, vous aurez autant de technologies, de savoir-faire pointu, dans des bons tramways, dans des bons systèmes de train, dans je ne sais quoi qui va être inventé, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix social et politique. Est-ce qu'on oriente une voie technologique dans un sens, ou est-ce que on l'oriente dans un autre? On pourrait prendre aussi l'exemple des OGM. Les OGM n'est pas la seule voie d'amélioration de l'agronomie. Il y a une autre voie avec un savoir-faire tout à fait différent, mais une technicité tout aussi grande dans agriculture biologique, mais au vrai sens du terme, avec beaucoup plus de... Enfin, voilà, il y a beaucoup de recherches, de gamberges qui se fait dans ce domaine, éventuellement d'amélioration des semences par sélection. Enfin bon, je passe les détails. Mais voilà, tout simplement, la réponse très rapide, c'est de dire... Il nous présente d'une part la technologie comme pouvant répondre aux problèmes. Si, un troisième point, c'est qu'il parle toujours de la technologie et de la science pour ne pas poser la question d'inégalité. Ils évacuent toujours la question d'inégalité, c'est-à-dire le problème social. Et ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au problème global dans lequel on est et qui est une fois de plus... Ah, bonjour, te voilà, toi. C'est le chien qui revient. Mais à chaque fois, il me perturbe quand même.
C'est du curatif,
c'est
pas du...
Voilà, ça répond pas au problème parce que... Bon, mais là, j'ai un peu tendance à me répéter. Je sais pas si mes idées étaient claires. Pas tout à fait. Hein. Non, on va peut-être discuter après. Alors là, ça, c'est sortir de l'Union européenne. Aurélien Bernier du MPEP porte beaucoup cette idée. Je suis un peu mal à l'aise parce que je crois que c'est comment présenter. J'essaye d'être clair. De finalement, là, ma réponse qui viendrait, c'est si on arrive à être en France dans une situation où le rapport politique est tel qu'il y a un pouvoir qui veut sortir de l'Union européenne. Et bien ça veut dire que dans plein d'autres pays de l'Union européenne, il y aura une évolution des rapports politiques qui le permettra aussi. Et que donc il n'y aura pas besoin de sortir de l'Union européenne. Parce qu'on veut sortir de l'Union européenne, parce qu'effectivement elle est manifestement aux mains des capitalistes ou de l'oligarchie, et qui continue, ça qui est absolument hallucinant, ils continuent leur programme de privatisation, de libéralisation systématique de tous les domaines d'activité. Je crois pas que par exemple... seule la France pourrait avoir un parti de vraie gauche ou de vraie écologie ou de vrai post-capitaliste pendant que l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne resteraient à deux degrés différents dans des systèmes capitalistes. Donc je pense que tout le travail qui est en train de se faire ici dans ce pays, il se fait sans doute en Allemagne, il se fait en Angleterre. Alors je ne sais pas assez, et là sans doute il faut qu'il y ait plus d'unification et de réseau qui se fasse, mais j'imagine difficilement que la France seule sortirait avec... vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième point, c'est que malgré tout, l'Union européenne reste une très belle idée, reste quelque chose d'essentiel. Alors, après, il y a deux raisons. Il y a d'abord, en soi, moi je suis d'origine alsacienne. Comme vous l'avez peut-être compris par mon nom de famille, qui est difficilement prononçable. Et voilà, mais moi j'ai toujours très, dans l'histoire de ma famille, qui était résistante, bon, ils n'en ont pas fait un plat, mais voilà, d'Alsace-Lorraine, et du coup une attention très grande, je veux dire une attention très grande à ces guerres, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, on peut analyser la guerre de 14 comme le résultat d'un capitalisme devenu fou, ça pourrait nous introduire à un autre point de notre débat, mais ces guerres ont été abominables à tout point de vue, ont été des déchirements. Enfin bref, je ne vais même pas faire un dessin, c'est évident que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est... voilà. Et l'idée européenne, elle est quand même faite là-dessus, sur cette idée, plus jamais ça. Et donc il y a un enjeu essentiel de faire la paix. Et moi, je ne veux pas perdre cette idée essentielle qui est au cœur de la construction européenne, qui est au cœur de cette belle idée. Et en gros, je voudrais qu'on arrive à sortir, et je pense que c'est ça qui est possible, sortir tous ensemble du poste du capitalisme. Parce que seul, j'ai imaginé que la France soit seule contre une Allemagne, une Angleterre, une Italie qui resterait totalement aux mains des marchés financiers, on tient pas trois mois, quoi. Donc il faut que ça soit une démarche, et je pense que c'est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement ici que les choses bougent, ça bouge partout, quoi. Et un deuxième aspect des choses qui est très important aussi, c'est que on n'a pas pu parler de tout, c'est rapide, mais on est, quand on parle de mondialisation du système culturel, il y a aussi un autre aspect de la mondialisation, c'est de la crise écologique, des phénomènes mondiaux. Et puis si on parlait des inégalités, on verrait que les mêmes problèmes d'inégalité se retrouvent, y compris dans les pays émergents. Moi je ne connais pas la Chine, mais j'ai eu l'occasion de creuser un peu l'Inde, c'est tout à fait fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des conflits sociaux en Inde, qui ne sont pas du tout rendus par les médias ici, mais c'est quasiment en situation de guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a un déchirement énorme, précisément, et quelqu'un comme Arun Dati Roy, que vous connaissez sans doute, le dit très bien, quoique de manière sans doute un peu excessive, mais le dit très bien. Voilà, on a là un capitalisme qui devient autoritaire, qui devient fasciste, un déchirement qui est en train de se faire dans le pays, une inégalité extrêmement grande, en fait, tout est là mêlé. Et je veux dire par là, d'abord que les problèmes peuvent se lire malgré d'énormes différences, bien sûr, dans tous les pays, ils sont les mêmes, parce que ce capitalisme, il est mondialisé, mais surtout, cette crise écologique, elle est mondialisée. Et que, par rapport à ça, je pense que l'Europe, par exemple, si on parle du protocole de Kyoto ou de l'enjeu de la discussion, il faut une politique internationale sur le changement climatique, et bien, quelque chose comme l'Europe est un bon échelon pour le faire. Et moi, je crois, et je crois aussi, mais ça, c'est pas pour clore, mais il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans l'Europe, et moi je l'ai bien vu par rapport aux OGM. C'est-à-dire qu'en gros, la bataille, elle n'est pas gagnée, mais c'est une très belle bataille qui a été menée sur les OGM, qui est menée dans tous les pays européens, avec des degrés et des formes différentes, mais quand on regarde l'histoire des OGM, on voit qu'un coup, c'est parti dans un pays, les Pays-Bas, puis après, il y a eu un relais en Allemagne, c'était une phosphorescence, avec en quelque sorte un sentiment commun de beaucoup de peuples européens de dire on ne peut pas avoir ce truc-là. Et paradoxalement, une unité dans la diversité. Parce que la cuisine en France, l'agriculture en Italie, enfin l'Espagne, eux, ils n'ont pas été très contre les OGM, mais par exemple en Grèce, il y a un mouvement très fort. Voilà, il y a cette idée très exemplaire de l'Europe, de cette Union européenne qu'on bâtit difficilement, qu'il est possible de s'entendre, tout en préservant, en conservant la richesse, la diversité de chaque peuple, de chaque pays. Et voilà, moi je crois que l'enjeu, c'est effectivement, il y a un enjeu de déraciner le crampon capitaliste qui s'est saisi de toute la machinerie européenne, mais je suis très mal à l'aise avec cette idée de sortie de l'Union européenne, pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer.
On reprend quelques questions, mais brèves, parce qu'on avance en soirée.
Là, je suis venue pour un témoignage, mais j'ai une autre question. Je suis venue parce que je suis membre de la CAD, bien sûr,
collectif de l'information dont vous avez parlé, et on voulait, bien évidemment, vous saluer parce que vous avez écrit un article dans Le Monde qui s'appelait « Les dinosaures sont revenus » qui a évidemment été, nous a été d'un grand soutien. Et cet exemple de combat qui a duré quand même plus d'un an prouve ce que vous dites sur la, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'au départ, c'était pas gagné d'avance, cette histoire de circuit qu'on a fait, c'était quand même, ça a été une bataille d'un pot de terre contre un pot de fer, et qu'on a quand même gagné grâce à la mobilisation, à la conscience et la protection des citoyens. Et je voulais en venir sur le fait que, effectivement, sur l'ensemble des problèmes que vous avez soulevés, c'est bien d'avoir des idées, de faire de l'éducation populaire, mais ATAC, c'est aussi un mouvement tourné vers l'action. Et que je pense que ces idées-là, si elles ne sont pas sous-tendues par des actions et des combats, ça ne sert strictement à rien. Et que là, cet exemple, ce combat, a montré qu'on avait les gens qui étaient partis d'un certain fatalisme, ils sont trop forts, ils ont tous les pouvoirs, le conseil général, etc. Eh bien, les gens, petit à petit, en plusieurs mois, ont pris conscience que c'était pas seulement un problème de ça va faire du bruit à côté de chez moi et puis c'est pas démocratique parce qu'ils ont décidé de prendre mon stick de conseil général, etc. Il y a eu une prise de conscience petit à petit de centaines et de centaines de citoyens sur l'enjeu transversal de ce combat qui était un enjeu sociétal. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement derrière l'environnement, la démocratie, les terres agricoles, l'avenir de l'industrie automobile, puisque derrière il y avait ce projet soi-disant que ça allait développer l'emploi dans l'industrie automobile, etc. Et les gens commençaient à réfléchir à tel point qu'aujourd'hui on a gagné, on essaye de faire appliquer la victoire évidemment, le retour des terres agricoles, mais que les gens qui, le plus gros noyau du collectif, veulent continuer à travailler sur qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre. C'était un exemple de ce que le capitalisme peut faire de pire, cet exemple de circuit F1, une folie, quoi, un truc complètement aberrant, mais qui passait comme quelque chose de tout à fait naturel, quoi. À tel point que, y compris dans des mouvements, enfin, dans une partie de gauche, et je suis désolée de le dire ici, que ce soit PS ou PC, on était dans cette idée que, oui, ben,
comment est-ce qu'on peut arriver à la question, voilà,
la question c'était justement par rapport aux luttes, est-ce que justement il ne faut pas aussi s'appuyer sur les luttes, et au bout d'un certain moment, est-ce qu'il n'y a pas un blocage parce que est-ce que les tenants du capitalisme ne vont pas à un moment réagir par une force brutale quand il y aura, ça ne suffit pas de créer des réseaux, au bout d'un moment ça remet en cause le pouvoir lui-même de des détenants de ce capital. Voilà.
Oui, j'aurais deux questions pour vous.
Plus près du micro.
J'ai retenu l'importance que vous avez mis en avant des zones culturelles et de la reconquête des idées. Alors, je voudrais vous poser une question. Comment ça se passe au monde? C'est la première question. Et la deuxième question, ça porte sur le nucléaire qui concerne finalement tous les domaines que vous avez, dont vous avez parlé, c'est-à-dire le pouvoir, la démocratie, la consommation d'énergie, l'écologie. Et donc, je rappelle que ATAC, pour la première fois, a voté une motion de sortie nucléaire, mais ça date du mois de décembre. Donc c'est quand même très récent et il y a eu des bagarres qui sont très fortes. Y compris au niveau du conseil d'administration du lobby nucléaire. Voilà. Donc c'est aussi à l'intérieur d'ATAC qu'il y a eu des débats sur le sujet.
Une question.
Une question qui va plus en jouer plusieurs réponses. C'est comment on fait pour rendre sexy ce que vous êtes en train de nous dire? Alors je vais essayer de sous le terme sexy. C'est-à-dire que j'imagine que principalement les personnes qui sont dans la salle ici sont des militants ou d'ATAC ou de groupes écolo très convaincus par ce que vous voulez dire. Donc pour nous ça ne pose aucun problème, on a rien découvert, on va dire. Par contre, lorsque nous militants, nous allons sur le terrain, rien que le fait de dire à des personnes mais je voudrais limiter la consommation d'énergie ou limiter la consommation matérielle, la première des réponses que l'on fait, c'est vous voulez qu'on retourne à l'âge de la préhistoire. Et moi j'ai beaucoup de mal je souscris complètement à ce que vous dites, j'ai beaucoup de mal à voir quand est-ce qu'on arrivera tous ensemble à atteindre cette masse critique. J'ai même l'impression qu'on y arrivera peut-être jamais, ou alors on ira vers ce qu'on appelle une sorte plutôt d'éco-fascisme. dirigeants qui sont très à même de faire du greenwashing et de dire, bon, voilà, on va faire, comme vous l'avez dit, on va faire des bagnoles électriques sans se poser le problème de la raison pour laquelle il faudrait plus de voitures. Et donc on aura une sorte d'écofascisme avec des taxes carbone en voiture, voilà, qui vont amplifier les inégalités en disant mais non, on fait ça pour sauver l'écologie, enfin pour sauver, pardon, pour sauver l'environnement. D'accord. Donc comment arrivez-vous, ou comment pensez-vous que nous, en tant que militants, on puisse aller prêcher la bonne parole et rendre vraiment, même pas crédible, parce que nous pouvons l'être, mais par contre, comment on fait pour transformer ça en les urges, quoi. Grosso modo.
Voilà, une dernière question.
Bonsoir. Alors, je suis membre d'Attaque et de plein d'autres mouvements. Je voulais vous poser une question sur ce que vous pensez du socialisme du 21e siècle, notamment au développement de l'Amérique latine, avec une personne que vous avez citée à Copenhague, et comme alternative au capitalisme et de la décroissance de ces alternatives-là.
Je me suis demandé comment on pouvait faire pour que dans la prise de conscience et dans la communication, on parle plus justement de cette donnée essentielle qu'est le PIB qu'il faut modifier, puisque croissance et décroissance s'appuient sur ce terme-là. Or, si vous modifiez le terme de base qui est le PIB, je pense qu'on fera passer beaucoup plus facilement le fait qu'il faut modifier la croissance. Mais arrêtez de parler de décroissance. C'est pas la décroissance en soi, c'est la modification du PIB qui fatalement modifiera le calcul de la croissance.
Bon, très bien.
Ouais, après c'est bon parce que je m'écroulerai, surtout que c'est pas des questions tout à fait simples. Je vais peut-être pas répondre dans l'ordre parce que bon, il y a trois questions. J'ai commencé par Le Monde. C'est un journal qui a mille défauts, mais qui a une qualité énorme, c'est que c'est, à ma connaissance, le seul grand, c'est encore un grand média, même si comme la presse quotidienne, c'est en recul, c'est le seul grand média qui, dont le capital soit détenu en partie par les journalistes. Vous pouvez prendre Le Figaro, Le Point, L'Express, M6, TF1, voilà. Et on a encore une part minoritaire de l'ordre de 25%, mais je peux vous dire que c'est très important. C'est-à-dire que moi j'ai été élu, et je ne le suis plus, comme le dit Wikipédia, à la Société des rédacteurs du Monde, c'est-à-dire aux actionnaires, journalistes actionnaires, dans des bagarres qui ont été assez dures à la suite du Péan Cohen. Je vous passe les détails, mais il est très clair que quand on était en discussion avec la direction, on ne leur parlait pas en syndicaliste, ce qui est très bien, mais on leur parlait en tant qu'actionnaire. Et ça change totalement la nature de la relation. Donc, moi, c'est un des arguments, par exemple, pour lesquels je plaide beaucoup pour les coopératives. C'est-à-dire le fait, en tant que travailleur, d'avoir une part réelle au contrôle du capital change le rapport de pouvoir. La deuxième chose, et qui est liée à cette appropriation, même si elle est trop faible, du capital, c'est qu'il y a une culture dans le journal qui a toujours existé, qui fait que tous les journalistes peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été, à une exception près, dans un moment de conflit rude, mais je n'ai jamais, et pourtant j'ai toujours défendu des idées assez clairement exprimées, qui n'étaient pas dans la ligne dominante, Et quand même quand j'étais en Bisbille, on était quelques-uns quand même à porter la bataille, mes articles passaient, alors que dans tout autre journal, ils ne seraient pas passés et j'aurais été viré. Et pas que moi, je ne veux vraiment pas en faire une affaire personnelle, mais ceux qui menaient cette bagarre. Donc voilà, ça c'est un point important. La troisième fois, c'est que les choses évoluent. C'est que, pour ne citer rien ici, on a très concrètement, Main, Colombani et Penel ne sont pas partis par l'opération du Saint-Esprit. Ils sont partis par un vote de la rédaction, et un vote de la rédaction qui avait été préparé par un travail, notamment au sein du Conseil de la Société des Rédacteurs du Monde. Et il y a un certain nombre d'orientations capitalistiques qui ont été prises, qui ont permis de corriger un certain nombre de. Au-delà des erreurs, le terme de café Colombani au Monde. Et puis par ailleurs, même si c'est un journal qui reste donc. Après, il y a une histoire, comme dans tout journal. Il est très clair que dans les années 90, notamment, il y a eu un choix, une adhésion totale au modèle néolibéral, que moi j'appelle capitaliste, idéologie et pensée capitaliste, mais à la fois qui permettait quand même à un certain nombre de voix de s'exprimer. C'est-à-dire que le journal, par exemple, n'avait pas trop mal suivi le mouvement altermondialisation, a été très présent et mieux que d'autres, je crois, sur l'écologie. Et puis maintenant, on est quand même à un point où d'abord, il y a une à deux pages planète tous les jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est en début de journal, avec derrière un service de près de 15 journalistes qui sont mobilisés sur les questions d'environnement et qui les intègrent totalement. Il y a une chronique écologique qui, à ma connaissance, presque pas tout à fait unique, mais enfin, c'est très rare. Tout ça, une capacité à porter ce genre de sujet. Aussi une attention beaucoup plus grande sur les libertés publiques que ça n'était le cas il y a 3 ans, parce que on a un peu poussé. Alors voilà. La reconquête des idées, ça se fait progressivement. Je ne vous dirais pas que la ligne dominante de la rédaction en chef soit tout à fait en harmonie ou en accord avec les idées que je vous ai présentées ce soir. Je ne vous dirais pas qu'un certain nombre de chroniqueurs, excellents confrères, je ne vais pas faire. Mais c'est une. Mais est-ce qu'il y a est-ce que quelqu'un ici est dans un endroit. Totalement harmonieux, où il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une bagarre. Alors, ceci dit, pour l'avenir, je suis pessimiste parce que la gestion antérieure a été tellement catastrophique qu'elle nous a légué une dette extrêmement énorme, et que même si maintenant on est revenu à une gestion à peu près correcte, on a un poids des frais financiers qui reste extrêmement lourd, qu'on a, je ne rentre pas dans les détails, mais une autre dette que nous a légué ces excellents messieurs Minck et Colombani avec Plenel qui étaient au courant, il y a 112 millions à rembourser ou 110 qui vont revenir, et donc comme ils ne seront pas remboursés, Publicis et je crois Lagardère vont vouloir exercer le pouvoir qui est attaché, et on est en voie de recapitalisation, et donc il y a un vrai souci qui se pose par rapport à l'indépendance du Monde et par rapport à ce que je vous ai décrit. Donc voilà où on en est. Donc si vous voulez, le travail de reconquête des idées, pour reprendre, avance, mais l'avenir à 6 mois et. Mais après, il y a une chose qui est importante, c'est que je ne plaide pas seulement pour mon journal, même si je crois que c'est aussi important, c'est que n'oublions pas que l'information a un prix. Elle a le prix des salaires des journalistes, des crayons qu'ils utilisent, de leurs ordinateurs et de leurs reportages. Et donc il y a aussi un enjeu en tant que citoyen engagé de soutenir en achetant les journaux, et je ne veux pas citer de noms, mais je crois qu'on sait tous quels journaux et quels livres on peut avoir envie de lire, et pas seulement aller sur Internet. Mais ça c'est que dans cette affaire, il y a aussi un enjeu d'érosion des gens, parce qu'il y a une mutation structurelle de la presse. Alors moi j'ai toujours beaucoup plaidé en disant, il ne faut pas seulement dire que c'est Internet qui est en faute, il y a un enjeu de ligne rédactionnelle, et je pense très profondément que si on a une ligne rédactionnelle plus différente, eh bien il y a des lecteurs qui reviennent, mais il y a aussi cet enjeu, d'une certaine manière, la balle est aussi dans le camp de la société, est-ce qu'elle veut des médias capitalistes ou est-ce qu'elle soutient d'autres formes d'expression, et soutenir des formes d'expression, ça signifie dépenser 1,40€ de temps en temps, 2€ ici, 4€ là, un abonnement, voilà. Donc, à chacun sa responsabilité, en quelque sorte. Pour le nucléaire, alors vous n'avez pas posé de questions, en fait. Donc, vous vouliez savoir peut-être ce que je pensais de la sortie du nucléaire. Je pense que il faut le faire. Il faut le faire, il faut s'orienter dans cette voie-là. Moi, j'ai beaucoup, moins depuis quelques années, mais beaucoup, énormément travaillé sur l'énergie nucléaire, sans jamais accepter d'être catalogué comme contre, parce que pour moi, ça n'est pas une question de pour ou de contre. Ça nous renverrait à une question précédente sur la science et la technologie et l'articulation entre des choix techniques et une organisation sociale. Mais en gros, je pense qu'il faut aller vers une sortie du nucléaire. Mais un, ça ne sera possible, et là il ne faut absolument pas faire de démagogie. J'ai eu un débat assez vif avec le réseau Sortir du Nucléaire qui défendent les énergies renouvelables, en laissant croire, c'est en train d'évoluer, ça évolue depuis un an, en laissant croire aux gens qu'on pourra changer l'énergie nucléaire par les énergies nouvelles. On n'a pas le temps d'en discuter là, mais ça n'est pas, il faut dire très clairement aux gens, vous voulez sortir du nucléaire, vous consommerez moins d'énergie, vous aurez moins d'énergie à disposition. Si on ne dit pas ça très clairement, je crois qu'on ment. Et donc voilà. Et par ailleurs, sortir du nucléaire, c'est un appareil industriel tellement lourd que ça va être du boulot énorme, mais il est tout à fait faisable. Donc je suis très content qu'ATAC, je croyais que c'était fait depuis longtemps, alors j'apprends seulement depuis décembre 2009, je suis un peu inquiet là. Bon, là on a pris beaucoup de temps. Alors, autre grosse question. Fabienne Laurel, je connais son nom, j'ai parlé un peu avec elle. On est d'accord, oui, faut du combat, de l'action. J'ai pas cité parmi les choses à faire, mais je crois que c'est totalement évident. Et l'exemple que vous avez donné, c'est vrai que Flint sans F1, pour ce que j'en ai suivi, est une lutte exemplaire. Et ce qui est encore plus exemplaire, c'est que vous continuiez avec un collectif pour réfléchir sur l'après-lutte. Vous n'êtes pas dans le NIMBY, pas chez moi, je veux juste te protéger. Non, c'est ça y est, vous avez apparemment engagé une réflexion collective et c'est vraiment formidable. Et la question qui va nous mener à l'autre question, enfin qui allait ensemble, le capitalisme va-t-il réagir, c'est totalement clair, oui. Mais je voulais revenir d'abord sur l'aspect des luttes. Ça progresse. D'abord, on obtient les choses que par les luttes, et je pense que chacun ici dans cette salle, à un certain degré, on a tous eu cette expérience-là. Et puis, j'aurais un exemple que j'ai entendu à la radio il y a 3 semaines, mais j'ai pas les noms en tête, parce que c'était vraiment en passant comme ça, j'aurais retrouvé l'histoire. Mais il y a dans une entreprise en province de sidérurgie qui était possédée par des Suédois, ils fermaient l'entreprise, et donc les ouvriers ont séquestré 4 ou 5 personnes de la direction, parce qu'au début, on leur proposait 4 000 € comme prime de licenciement, et ils ont dit, vous foutez de notre gueule, et ils ont gardé les gens pendant 36 heures, et les gens sont sortis au bout de 36 heures, et les ouvriers sont sortis avec 28 000 €. Alors, ils étaient contents, et le gars, je me souviens très bien, parce que l'interview du représentant de la CGT disait, on a eu ça parce qu'on s'est battu et que les médias ont soutenu et bien suivi, donné la bonne information là-dessus et on a gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un mois ou il y a 3 semaines, ils ont fait cette bataille. Il y a 6 mois ou il y a un an, les séquestrations à Continental ou ailleurs, très souvent ils ont perdu. Je veux dire par là qu'il y a une évolution dans l'esprit, dans la conscience commune, dans le désir des gens de bouger, de transformer le monde, dans peut-être la rébellion, au bon sens des termes, dans cette conscience que là, ils nous prennent vraiment pour des demeurés et on ne va pas se laisser faire. Donc oui, le combat, il faut s'appuyer sur les luttes, j'allais dire, mais vous avez raison de le rappeler, ça va de soi, mais non, ça fait totalement partie du tableau général et de... mais alors, est-ce que le capitalisme va réagir? Alors oui, totalement. Alors je vais en venir après, je viendrai après à l'écofascisme, mais là je vous ai présenté le post-capitalisme heureux. Ouais, on va faire des coopératives, tout le monde ensemble, on n'est plus des individualistes, on baisse la consommation matérielle, on éduque nos enfants, on va gambader avec les chiens, la vie est belle, ouais, on peut sortir du capitalisme. Oui, option possible, voie possible. J'ai pas dit que c'est ça qui allait se passer. Il y a une autre option, l'autre scénario, aussi vraisemblable, c'est une radicalisation de l'oligarchie. C'est-à-dire une crispation de l'oligarchie sur sa représentation du monde, sur ses privilèges, et qui conduit à un recul de la démocratie et à un capitalisme autoritaire, ou plutôt un post-capitalisme autoritaire, qui sera d'autant plus... Enfin voilà, c'est un scénario. Et c'est un scénario... Ces scénarios, comment dire, on n'est pas là à étudier au tableau, ben voilà ce qui s'est passé. On est dans un mouvement historique. On est dans quelque chose qui se passe. Cette crise écologique, elle avance, elle se fait, elle se déroule. Cette crise sociale, elle a commencé à se manifester très fortement. Et peut-être que la croissance ou leur économie va repartir. Moi, je ne crois absolument pas. J'ai eu un débat même avec quelqu'un, un économiste capitaliste qui suit la Chine, qui est intelligent au demeurant, mais voilà, moi je dis, la croissance en Chine à 10%, ça ne tiendra pas quelques années. La relance, peut-être que je me trompe, mais voilà, moi je pense qu'on va rentrer, on est rentré précisément parce que toutes les tensions qu'on a décrites sont devenues tellement fortes qu'à un moment ça pète. Et on est à ce moment, alors la bonne chose c'est que ça, justement ça ne pète pas. On n'est pas dans l'infarctus. On est dans le malaise très profond, douloureux, mais qui nous laisse, à mon avis, suffisamment de dynamique sociale pour que on puisse orienter ça dans un sens positif. Mais je veux dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné si on n'arrive pas, comme vous l'avez dit, à convaincre de ce qu'on fait. Et des idées qu'en gros on partage ou... voilà, de cette voie. Autrement, et en plus, c'est pas dans l'avenir, ce capitalisme autoritaire. Je veux dire, il est déjà là. Alors, j'ai pas le temps, là, ça nous prendrait, mais il y a une partie dans un livre qui explique que moi, je dis que le capitalisme s'est séparé de l'idée de la démocratie. Depuis, en gros, une vingtaine d'années. Alors, je l'ai pas intégré dans l'exposé, parce que je voulais pas faire comme Nikonov une heure et demie. Non, j'aurais pas eu le... Ne prenez pas du tout une critique à l'égard de Jacques Nikonov, mais voilà, j'étais pas dans la capacité de parler. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que... il y a une évolution importante et qui s'affirme de plus en plus vers le capitalisme autoritaire. Et on a en France un modèle, là encore, parfait avec Sarkozy. On sait à l'œuvre la régression des libertés publiques, le fichage généralisé, la vidéosurveillance, les tests ADN pour les manifestants. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire le tableau, on est tous au courant de ça ici. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis avec un président quand même très démocratiquement élu qui manifestement porte beaucoup d'espoir populaire, qui propose une loi, la loi sur la santé, je veux dire, pour nous, avec la sécurité sociale, ça nous fait rigoler, quoi, seulement ça, et qui se fait totalement balayer par l'oligarchie qui n'achète rien. Pour regarder comment ils s'accrochent, les Goldman Sachs et tout ça, comment ils s'accrochent à leurs primes. Proglio, il faut 4 jours de protestation pour qu'ils lâchent ces 2 millions d'euros. Enfin, ils vont, ben c'est clair, ils sont en train de... On est engagé dans le capitalisme autoritaire. C'est ça qu'ils essayent de nous faire. Donc, c'est pas dans le futur. C'est pas qu'il va réagir. C'est qu'il réagit déjà. Il a déjà commencé. Mais peut-être que là, on est en train de prendre conscience qu'il y a un enjeu de démocratie, un enjeu de liberté publique. Et de la même manière que... Comment dire ? Je citais l'exemple de cette bagarre de ces ouvriers, je ne sais plus où c'était, cette sidérurgie dont je vous ai parlé... pour montrer qu'en quelques mois, les choses progressent très vite. Les idées progressent vite. Après, la conscience écologique, moi, je vends dans le domaine depuis 20 ans. Depuis une dizaine d'années, même peut-être 5-6 ans, je vois une évolution fulgurante en France. On aurait parlé, là, je vous aurais parlé de la crise écologique et du changement climatique il y a 6 ans, vous ne m'auriez pas... Hein, vous avez beaucoup bougé. La question des inégalités, il y a 6 ans, on n'était pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Je me suis rendu compte du phénomène seulement depuis 4-5 ans. D'ailleurs, les études de Piketty, il a vraiment commencé à sortir ses études en 2002, je crois. L'étude de Friedman et Sachs dont je vous parle, elle date de 2006. Or, maintenant, ça y est, toutes les classes moyennes ont compris que l'oligarchie s'est totalement fichue de leur tête depuis une vingtaine d'années. Et d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer sur la démocratie, là, c'est le pari que je fais, sur l'utilité de la bataille, c'est aussi en train d'avancer rapidement. C'est ça qui permet quand même d'ouvrir avec plus d'optimisme à ça, mais l'option, le post-capitalisme écologique et social, il n'est pas gagné. Il y a le post-capitalisme autoritaire. Je dirais à nous de faire en sorte que l'histoire suive un autre. Alors, est-ce que c'est sexiste que vous dites ? Non, c'est pas sexiste. Simplement, je vous fais remarquer une chose, c'est que avec les amis, ouais, le coup dernier, on espère qu'il y aura 100 personnes, et puis la salle est pleine, on écoute, on discute bien ensemble, et il y a 25 personnes dehors et un chien. C'est une première. Donc, je veux dire, l'enjeu, c'est pas sexy, quoi. C'est, est-ce qu'on dit des choses, est-ce qu'on parle de choses intéressantes ? Vous savez pourquoi vous êtes tous venus ici ? C'est pas pour ma pomme, parce qu'il y avait marqué sortir du capitalisme. Et l'idée qu'on puisse, comme le disait Nicolas, sortir de la fatalité, imaginer un autre chemin, et ben voilà, il n'y a pas besoin d'être sexy, c'est positif. Alors, bon, ben, si vous n'avez rien découvert, j'en suis désolé, mais tant mieux. Parce que là, ça veut dire que retourner à l'âge de la préhistoire, il vous dit ça. Alors là, j'ose pas vous dire de lire le livre, mais moi, je raconte une anecdote où je me suis retrouvé à un débat dans le bouquin avec Guillaume Sarkozy, c'était au Sénat. Je m'étais retrouvé par une sorte de complicité dans ce truc, et il y avait un aéropage de gens tout à fait... Puis moi, j'étais au bout de la table, comme ça. Et puis, il ne s'occupait pas du tout de moi. Et puis, j'ai fait mon petit exposé, et j'y étais un peu en 5 minutes, ce que je vous ai fait ce soir. Alors là, quand même, quasi électrochoc, c'est Guillaume Sarkozy qui se retourne, c'est le frère de l'autre, là, qui dit « Ah, vous voulez retourner à l'âge de pierre ?» Bon, c'est pas le problème. On n'a pas à leur dire qu'on va retourner à l'âge de pierre. C'est eux qui vont nous faire revenir à l'âge de pierre. S'ils continuent à foutre tout en l'air, à avoir un changement climatique délirant, à se foutre de la biodiversité, à trouver absolument fantastique que les Chinois passent à autant de voitures que chez nous, là, c'est sûr qu'on va, je sais pas si ça sera l'âge de pierre, mais ça sera l'âge du chaos, l'âge du malheur, l'âge de la pollution généralisée. Donc c'est ça qu'il faut leur dire. Et que nous, justement, on veut aller vers un progrès, pour autant que ce mot ait encore d'importance, et on veut aller vers un avenir qui soit autre. Et donc, quand on arrive dans ce monde de la fatalité, j'aime beaucoup ce qui a été dit, ce que Nicolas disait tout à l'heure sur la fatalité, si on rouvre les perspectives, qu'on dit, ben non, il est possible de faire autrement. Il est possible non seulement de gagner une bataille sur cette piste de Formule 1 qui était totalement idiote, mais d'imaginer ensemble un avenir différent pour cette région qui est marquée par l'automobile, et puis à une certaine époque c'était bien, et de commencer à penser différemment. C'est possible, Dominique nous racontait dans son village, il y a 8 hectares qui se libèrent, et puis normalement ça aurait dû aller à un lotissement ou à une zone de logistique ou ce genre de choses qui nous font avancer vers l'âge de pierre précisément. Et là il y a un truc et des paysans qui reprennent, ils vous en parleraient mieux que moi, et puis ils vont faire un... Ben, rien, les choses sont possibles. Mais alors après, écofascisme, ben, là, retour à la question précédente. Mais oui, c'est une possibilité. Mais il faut dire, l'écofascisme, il ne viendra pas des écologistes. Nous, on est pour la démocratie et la liberté. Mais si on ne change pas le système, donc si on ne modère pas ces pulsions destructrices, si on n'arrive pas à enrayer cette machine, à accélérer le chemin vers la crise écologique, eh ben, cette crise écologique se manifestera. Donc les tensions, les effets sont tellement importants qu'il faudra prendre des mesures. Et si on n'a pas reconquis le pouvoir, après tout, employons les grands mots, même si c'est compliqué, si on n'a pas changé le cours des choses, si on n'a pas réussi à être suffisamment convaincant pour parler à nos voisins, à nos amis, à nos collègues, à tout ça, en leur dire, mais si, on peut faire autrement, ben oui, effectivement, Sarkozy, et puis tout c'est, alors, c'est pas une question de personne, hein, c'est, voilà, oui, ils prendront des mesures, le fascisme, il est du coup. Un mot sur le fascisme, parce que, et on va conclure là-dessus, ou non, on dira un mot sur le socialisme du 21e siècle, après il y a la décroissance, alors. Et Dominique, il me dit 10h30. Bon, un mot juste, par rapport à la question de la démocratie qui est centrale, on a du mal à exprimer ce qui se passe, parce qu'on raisonne, mais on a raison de le faire, par rapport au fascisme de Mussolini et au nazisme d'Hitler. À une époque où les instruments de conditionnement culturel étaient beaucoup plus frustes que maintenant. Maintenant, ils sont plus habiles, parce que simplement, les moyens de communication, quand on parlait tout à l'heure de publicité, quand on voit le talent psychologique des publicitaires, je veux dire, c'est plus fin. Donc, il faut trouver d'autres mots, je pense, pour qualifier le capitalisme autoritaire vers lequel on va. Je ne suis même pas sûr que capitalisme autoritaire soit le bon terme. Mais qu'il y a un enjeu de restriction des libertés en fonction de ce qui arrive, oui, il est essentiel, mais une fois de plus, ce n'est pas les écologistes qui menace les libertés, c'est par rapport à une crise écologique qui viendrait, eh ben, c'est ceux qui seraient au pouvoir et qu'on n'aurait pas réussi à faire changer de cours. Très rapidement, croissance, décroissance, vous avez tout à fait raison, c'est un débat que j'ai assez vivement mais courtoisement avec avec Vincent Chesnel, la décroissance, pour ne pas le nommer. Et vous avez bien noté que dans tout l'exposé, j'ai parlé de baisse de la consommation matérielle et baisse de la consommation d'énergie. Voilà, parce que vous l'avez très bien compris, selon qu'on mesure le PIB, l'enjeu de la croissance est différent. Alors, bon, en deux mots, oui, moi, j'en fais pas un. Je pense que décroissance, un mot, enfin, moi j'aime bien ce que disait Paul Ariès, c'était bon, c'est un mot obus. Donc c'est très bien comme mot obus. Et puis une fois qu'on a fait une fissure dans le mur, et je crois que la fissure est faite, ben on voit comment on abat le mur et comment on construit une maison un peu plus confortable, ou je sais pas quoi, enfin. Voilà, en deux mots, évidemment changer le PIB, si on, comme pour l'instant on parle de croissance du PIB, si on change le PIB et qu'on change cette logique de la façon de changer les choses, je dirais presque le problème intellectuellement ne se pose plus, ou en tout cas, il se pose avec de nouveaux termes et de nouveaux vocabulaires, et moi j'ai plutôt envie d'avancer vers le vocabulaire, mais si dit, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se réfèrent à la décroissance ne pose aucun problème. Et puis ben, pour conclure, quoi que je ne sais pas s'il sera socialisme du 21e siècle, c'est Chavez
oui.
Ou Morales
les deux.
Ouais. Écoutez, moi, Chavez, je ne le connaissais pas, enfin, j'avais jamais pris le temps de m'intéresser vraiment au Venezuela avant que m'arrive l'heureuse surprise. Il y avait une petite histoire en amont, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais que l'heureuse surprise que Hugo Chavez lise, surtout il l'a lu, Comment los ricos destruyen el planeta, et je cite. À l'ONU, donc du coup je fais plus attention sur le Venezuela. En gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une présentation du Venezuela dans la pièce, dans la presse française, dans les médias français, qui est hystérique. C'est un pur scandale. J'aime pas le terme de désinformation, mais là on nage dans la désinformation. Je dis pas du tout que Chavez et voilà, bon, j'en connais pas assez. En tout cas, c'est comme très souvent, beaucoup plus compliqué et subtil que le tableau qui en est dressé, c'est pas un despote, etc. J'aimerais bien qu'on s'intéresse beaucoup plus, par exemple, à ce qui se passe en Colombie, où vous avez avec Uribe, une politique au nom de la lutte anti-FARC, etc., qui est d'une certaine manière justifiée, mais qui conduit à des débordements en matière de répression des droits de l'homme. Il y a 70 syndicalistes qui ont été tués l'année dernière en Colombie, je sais pas si, mais je le vois jamais écrit, y compris dans un journal que j'aime bien par ailleurs, mais ça fait partie, par exemple, de ses défauts, c'est le suivi de l'Amérique latine. Voilà, on se bagarre un peu pour faire évoluer les idées. En revanche, je suis très attentif à ce qui se passe Morales depuis très longtemps. J'ai le projet depuis longtemps d'y aller en reportage. C'est très intéressant ce qu'ils font, mais je ne sais pas le sens que ça a pour nous, vivant en France, dans un pays super riche, avec des niveaux de vie totalement différents. Mais déjà, il y a une chose que ça prouve, c'est que c'est possible. Je veux dire, Morales était un paysan. Moi, le hasard fait qu'il y a une semaine, j'ai rencontré quelqu'un qu'il avait connu il y a 20 ans. C'était un paysan qui était comme un militant d'Attaque ou de la Confédération paysanne. Voilà. Et puis, il y a une bagarre qui s'est faite. Il a réussi à. Et puis, il a porté par cette communauté indigène qui a affirmé ses. Vous connaissez l'histoire de la Bolivie, hein, c'était. Et puis, il arrive au pouvoir, il reprend la rente. C'est-à-dire. Ben voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, moi, je ne sais pas en quoi ça peut être utile comme modèle pour nous, mais déjà, ça ouvre un espace sur l'Amérique latine, ce qui est important, et ça montre que c'est possible. Alors, finalement, le socialisme du 21e siècle, je ne sais pas, mais soyons, nous, Gaulois ou Français, les Boliviens de l'Europe. Merci.